السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ومن نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En cette soirée du mercredi, en cette soirée du mercredi 26 Rajab, mercredi 26 Rajab 1434 de l'Hégire, correspondant au 5 juin 2013, bi'idhnillah ta'ala. Donc, avec le cours numéro 27 de Ainsi étaient nos vieux prédécesseurs. Aujourd'hui, on va parler, inshallah ta'ala, de la vigilance face à la fatuité et à la suffisance. Ce qu'on appelle en arabe, al-hadar min al-ghurur ou al-ujb. Donc, la vigilance face à la fatuité. La suffisance, c'est clair. La personne croit qu'elle s'y suffit. Elle n'a plus besoin de faire des efforts. Et la fatuité, c'est l'ostentation, c'est faire des choses avec orgueil, avec vanité. Faire des choses et se croire qu'on est le meilleur. Inch'Allah ta'ala, avant cela, juste une petite remarque. Inch'Allah ta'ala, quand, surtout c'est pour les admins, quand vous voulez me passer le micro, Inch'Allah ta'ala, il ne faut pas couper le verset en deux. Non, il faut attendre que le verset se termine. On se donne le micro, Inch'Allah ta'ala. La même chose quand il reste seulement deux ou trois pour que la sourate se termine, on laisse inshallah ta'ala la sourate se terminer quand il reste seulement deux ou trois versets bi'idhnillah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Muhammad ibn Musa rapporte, il a dit, j'ai vu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, et il a dit j'ai vu Aba Abdillah, pardon. Abu Abdillah, c'est l'imam Ahmed. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. Il a dit, je l'ai vu alors que le Khurasani lui a dit, louange à Allah, alhamdulillah, pour m'avoir permis de voir. Alors Ahmed répondit, assieds-toi. Qu'est-ce que cela? Qui suis-je? Assieds-toi. Qu'est-ce que cela? Qui suis-je? Ensuite, un homme lui dit, il a dit, un autre homme a dit, j'ai vu les signes de l'affliction sur le visage d'Abu Abdillah, Imam Ahmed, après qu'un homme ait fait ses éloges, lui a fait ses éloges, en disant qu'Allah te récompense par un bien au nom de l'islam, c'est-à-dire pour ce que tu fais. Ahmed répondit, plutôt qu'Allah récompense l'islam par un bien pour moi. Qui suis-je? Que suis-je? Naam. Mohamed ibn Moussa rapporte, j'ai vu l'imam Ahmed alors que le Khurasani lui a dit, Alhamdulillah pour avoir permis de te voir, c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui, Alhamdulillah. Il lui a dit, assieds-toi, qu'est-ce que cela? Pourquoi tu dis ces choses comme ça? Qui suis-je? Et un homme dit, j'ai vu les signes de l'affliction sur le visage de l'imam Ahmed après qu'un homme lui ait fait ses éloges en lui disant qu'Allah te récompense en un bien au nom de l'islam, pour ce que tu as fait pour l'islam. Il répondit, plutôt qu'Allah récompense l'islam par un bien pour moi, et non pas le contraire. Qui suis-je moi? Et que suis-je? Que suis-je pour que, yani, ceci m'arrive? Donc, vous voyez, yani, la modestie, comment, yani, les savants, et comment pieux, yani, comment qu'ils étaient, quand alors on leur faisait des éloges, que jamais, il ne sentait yani, la fatuité et l'ostentation. Ibn Aoun, rahimahullah, a dit, ne fie pas à la multitude des œuvres, car tu ne sais si elles sont acceptées ou non. Ne te sens pas en sécurité vis-à-vis de tes péchés, car tu ne sais si on te les a pardonnés ou non, car tes œuvres te sont totalement cachées, et tu ne sais pas ce qu'Allah en fera, et s'il les mettra au plus haut degré du paradis, ou bien au plus bas degré de l'enfer. Naam. Ibn Aoun, rahimahullah, a dit, ne te fie pas à la multitude des œuvres, car tu ne sais pas si elles sont acceptées ou non. Ne te sens pas en sécurité vis-à-vis de tes péchés, car tu ne sais si on te les a pardonnés ou non, car tes œuvres te sont totalement cachées, tu ne sais pas donc, et tu ne sais ce qu'Allah en fera. Est-ce qu'il va les mettre au plus haut du paradis ou bien au plus bas degré de l'enfer? Donc la personne ne doit jamais se fier et dire que je fais beaucoup d'œuvres, donc tout est accepté, ça. Non, car tu ne sais pas si elles sont acceptées ou pas. Faire beaucoup d'œuvres, c'est mashallah. Mais encore faut-il la sincérité et que ça soit d'après la charia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Al-Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah a dit à Abi Muslim, il lui a dit, personne ne m'a jamais loué sans que je ne minimise ma personne. Al-Mutarrif ibn Abdullah a dit, personne ne m'a jamais loué sans que minimise ma personne. Non, barakallahu, comme ça je sais que ça s'est affiché. Personne ne m'a jamais loué sans que je ne minimise ma personne. Self. Tu lui fais l'éloge, il se minimise. Ils se sont tout petits. Vous allez voir un peu plus bas qu'ils n'aiment pas même. Ils n'aiment pas qu'on les loue. D'autres, quand on les loue, ils se sentent, ils grandissent. Ils se sentent, ça lui fait plaisir, il se sent que il est le meilleur. Il est le meilleur. La preuve, on l'a loué. Naam. Shafi'i rahimahullah a dit, si tu crains la fatuité, tu crains l'ostentation, etc. Concernant tes œuvres, alors rappelle-toi l'agrément de celui que tu vises, les délices que tu recherches, le châtiment que tu fuis, car celui qui réfléchit à cela, ses œuvres lui paraîtront minime. Imam Shafi'i rahimahullah a dit, il a dit, si tu crains la fatuité, tu as peur de l'ostentation concernant tes œuvres, alors rappelle-toi l'agrément de celui que tu vises. Toi, tu vises qui? Tu vises l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas toutes les œuvres, il faut qu'elles soient vraiment sincères. Rappelle-toi aussi les deals que tu recherches, les délices que tu recherches dans ce qu'il y a comme vision d'Allah et paradis et peut-être la proximité des messagers, ça demande des œuvres vraiment sincères. Donc, il faut toujours penser à cela. Et le châtiment que tu fuis quoi? Tu fuis de l'enfer. Naam. Pour être épargné de l'enfer, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et suivons la sunna aussi. Il a dit, celui qui réfléchit à cela, ses œuvres lui paraîtront alors minimes. Non. Tu sens que tu te dis, je suis masha'Allah et alhamdoulilah, je suis le plus pieux ici dans la ville ou là. Rappelle-toi vite que tu vises l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et avoir l'agrément d'Allah, c'est pas facile. Tu vises le paradis et ses délices, c'est pas facile. Tu vises que tu fuis de l'enfer. Non, ce n'est pas facile aussi. Et comme ça, alors, tes œuvres vont te paraître vraiment minimes. Tu vas même sentir le contraire. Tu vas dire vraiment, je suis dans le laxisme. Vraiment, je suis vraiment insouciant. Je suis insouciant. Non. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, combien de ceux qui demandent pardon sont et combien de ceux qui gardent silence se voient accorder la miséricorde. Ensuite, il a dit, celui-ci demande pardon alors que son cœur est dépravé. Et cet autre garde le silence alors que son cœur mentionne Allah. Yahya ibn Mu'adh rahimahullah a dit, oh, combien de ceux qui demandent pardon et pourtant ils sont haïs. Et combien de personnes qui gardent le silence accorder la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a dit, le premier, celui qui a demandé pardon, alors que son cœur était dépravé, perverti. Naam. Alors que l'autre n'a pas demandé pardon, il a gardé le silence, mais son cœur n'arrêtait pas de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a parlé la fois passée, on a dit que des fois la personne fait une bonne œuvre, et cette bonne œuvre va être quoi? La cause de l'enfer. Et des fois elle fait un péché, ça va être quoi? Là, la cause du paradis. Et on a expliqué pourquoi. On a expliqué pourquoi. Mais allez, je réexplique très vite, on ne sait jamais, quelqu'un va entendre par exemple le cours et pas assister à la fois passée, ça va lui donner des ambiguïtés. Une personne peut faire une bonne œuvre et aller en enfer. Pourquoi? Elle va ressentir ce qu'on vient de maintenant. Elle ressent l'ostentation, la fatuité, l'autosatisfaction. Que je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Non. Tout cela, donc, ça va t'annuler ta bonne œuvre et te remplir de. Et le contraire, une personne fait un péché, ensuite elle n'arrête pas d'avoir des remords, de regretter, de pleurer et de se dire par Allah que je vais me rattraper, etc. dans son cœur. Celle-là, Allah Ta'ala va effacer ce péché et l'entrer au paradis. Naam. Al-Hassan Basri a dit, par Allah, il a juré, par Allah, pas un croyant ne se lève ou ne se couche sur la surface de la terre sans craindre l'hypocrisie. Et seul l'hypocrite se croit à l'abri de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hassan Basri. Il a juré par Allah, pas un croyant ne se lève ou ne se couche sur la surface de la terre sans craindre l'hypocrisie. Et seuls l'hypocrite se sont à l'abri d'hypocrisie. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les personnes qui à chaque fois disent je me sens hypocrite. À chaque fois que tu te dis comme ça, c'est alhamdoulillah, tu es vraiment sur le droit chemin. Et le contraire, attention, seuls l'hypocrite se sont à l'abri d'hypocrisie. Seul l'hypocrite, il dit, oh, moi je suis mashallah, il n'y a pas plus sincère que moi. Moi je suis vraiment sincère. Hein. Allah sait dans mon cœur que je suis sincère. C'est celui-là qui peut être un hypocrite. Mais il n'y a pas une personne qui est sincère et qui, presque tout, une fois par jour ou bien je ne sais pas combien, ça lui arrive de dire si je suis sincère ou pas. Je ne sais pas si Allah t'a lavé de moi ou pas. Je ne sais pas si je fais ça pour Allah ou pour les gens. Et comme ça. Subhanallah. Pour ne pas vous mentir. Moi aussi, quand je fais le cours, je me dis comme ça. Je me dis, je ne sais pas si ce cours c'est pour Allah ou là pour les gens, pour qu'ils disent celui-là, il parle bien, ceci, cela, Allahu alam. Naam. C'est toujours comme ça donc. Naam. Donc j'ai remarqué beaucoup de sœurs surtout. J'ai peur, je suis hypocrite, ceci, cela, surtout les reconvertis. Je dis au contraire, puisque tu penses déjà, c'est mashallah. Ça nous arrive à tous, naam. Justement, si ça t'arrive pas, c'est grave. Si ça t'arrive pas de sentir que tu es hypocrite, donc c'est grave. Faut dire que tu as la fatuité. Tu as l'autosatisfaction et tu veux dire là, je suis mashallah, ceci, cela. Non. Ce qu'on était pas. Tayyib. Ishaq ibn Khalf, rahimahullah, a dit, rien ne brise plus le dos de Iblis que la parole du fils d'Adam lorsqu'il dit, malheur à moi. Quelle sera ma fin? À ce moment, Iblis désespère et dit, quand va-t-il s'infatuer de ses œuvres? Non, je répète. Ishaq ibn Khalf, rahimahullah, a dit, rien ne brise plus au de Iblis que la parole du fils d'Adam lorsqu'il dit, malheur à moi, quelle sera ma fin? Alors à ce moment, Iblis désespère et dit, quand va-t-il s'infatuer de ses œuvres? Il dit celui-là, il dit que malheur à moi, quelle sera ma fin, je ne sais pas si je vais aller au paradis ou si je vais en enfer. Donc ça, Iblis ne l'aime pas. Parce qu'une personne qui pense comme ça, c'est une personne qui est mashallah. Mais Iblis aime le contraire. Il dit quand cette personne va-t-elle s'infatuer de ses œuvres et dire, oh moi je suis mashallah, je suis la plus pieuse, je suis la meilleure. Là, Iblis sera content car il sait que quand une personne va s'infatuer de ses œuvres, ça veut dire que c'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer. Elle a l'ujb et l'autosatisfaction ou le ghurur. A'oudou billah. Naam. Donc, si tu veux donner un coup à Iblis et lui briser son dos, toujours dis-toi, malheur à moi, quelle sera ma fin? Je ne sais pas si Allah va me pardonner ou pas. Je ne sais pas s'il va me faire entrer au paradis ou en enfer. Je ne sais pas s'il accepte mes œuvres. Je ne sais pas si je suis sincère. Je ne sais pas ceci, cela. Naam. Iblis va mourir. Il va mourir. Ali ibn Zayd, rahimullah, rapporte. Il a dit, Hassan al-Basri dormit chez nous. Un jour, Hassan al-Basri est venu dormir chez nous. Et il passa la nuit à pleurer. Il passa la nuit à pleurer. Au matin, je lui dis, ô Abu Saïd, c'est-à-dire Hassan al-Basri, ô Abu Saïd, tu as fait pleurer notre famille la nuit dernière. En t'entendant pleurer, tout le monde a pleuré. Il répondit, ô Ali, tu veux savoir pourquoi j'ai pleuré? Je me suis dit, ô Hassan, c'est-à-dire à lui-même, ô Hassan, il se peut qu'Allah Azzawajal ait vu un de tes défauts et a dit, fais ce que tu veux, je n'accepterai rien de toi. Allahu Akbar. Ali ibn Zayd, il a dit, Hassan Basri a dormi chez nous, il passe la nuit à pleurer. On m'a dit, ô Abu Saïd, tu sais, tu as fait pleurer toute la famille. Il répondit, oh Ali, je vais te dire pourquoi j'ai pleuré. Je me suis dit, oh Hassan, il se peut qu'Allah Azzawajal ait vu un de tes défauts et qu'il ait dit, fais ce que tu veux. Je n'accepterai plus rien de toi. Je n'accepte rien de toi. Fais ce que tu veux maintenant. Il a dit alors, j'ai pleuré nuit. Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est possible qu'Allah Azzawajal ait vu un de tes défauts. Regardez, un pieux comme Hassan al-Basri reconnaît qu'il a quoi? Des défauts. Pas un défaut. Il a dit, Allah Ta'ala a vu un de mes défauts. J'ai des centaines. Hein, j'ai des centaines de défauts. Ils font pas la tazkiya eux-mêmes. Ils disent, on est mashallah. Ah, j'ai plein de défauts. Il se peut que Allah Ta'ala, pour un seul défaut, il va me dire, tu veux pas te corriger, alors fais ce que tu veux. Je n'accepte rien de toi. Non. Et toujours, Hassan, rahimahullah, a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent. Combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Et combien sont trompés par le fait que leur péché soit dissimulé. Hassan rahimahullah a dit, oh, combien de gens sont amenés progressivement à la perte. Pourquoi? Par la bienfaisance dont ils jouissent. Et combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Et combien de gens sont trompés par le fait que leur péché soit dissimulé. On commence par la première. Quand il a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne des bienfaits, beaucoup de bienfaits à une personne. Alors que cette personne, elle est loin de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et fait beaucoup de péchés. Et elle a tout. Elle jouit de toutes les bienfaisances. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, donc je suis bien. Si ça ne marchait pas ou si j'étais dans la faute. C'est-à-dire que Allah Ta'ala m'aurait quoi? M'aurait yani châtié. Alors comment se fait-il que j'ai tout ça? On a parlé de ça la fois passée. Non. Allah subhanahu wa ta'ala peut, yani, dans sa sunna, il donne quoi? Il donne des pièges. Des pièges à qui? Aux pécheurs. Car il ne veut pas revenir vers lui. Ah bon, tu ne veux plus revenir? Alors maintenant, je vais t'ouvrir les portes. Je vais t'ouvrir les portes de façon à te faire penser. À te faire penser que tu n'es pas dans l'erreur. Et beaucoup de gens disent par l'azim. Moi, je suis mashallah. Si j'étais fautif ou bien je ne sais pas quoi, Allah Ta'ala m'aurait châtié. Mais regarde, Allah Ta'ala me donne et il m'ajoute. Et comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On va leur citer quelque chose. On leur dit, regardez le verset qui vient. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَذَنْ وَمَا نَحْنُ بَعَذَّابِينَ. Allah Ta'ala a parlé de certains gens et des kuffars. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas. Vous avez vu? En disant nous avons davantage de richesses et d'enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour eux, donc, la preuve, nous ne sommes pas châtiés. Et nous ne le serons pas aussi. Si on n'a pas été châtié dans cette vie, on ne sera pas dans l'au-delà. La preuve, c'est quoi? On a davantage de richesses et d'enfants. Si Dieu, vous dites qu'il y a Dieu, etc. Alors pourquoi il nous donne tant d'avantages et de richesses et d'enfants? Normalement, il nous châtie. Taïb. Ce qui vient aussi, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي دُنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de prendre garde dans le Coran. Il nous a dit et que, attention, et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Non, pourquoi il leur a donné les biens, etc. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit attention, attention, ne sois pas émerveillé par les biens et les enfants que je donne aux kuffars et à ceux qui me font la guerre. Attention. Allah ta'ala ensuite te dit, je vais te dire pourquoi je leur donne tout cela. Eux, ils croient que je leur donne cela parce que je les aime. Et moi, justement, je leur donne cela pour les châtier ici-bas. Et la deuxième des choses, pour que ils meurent kuffar. Lorsqu'ils rendent l'âme, ils la rendent péniblement en étant mécréants. Ils ne rentrent pas en islam. Quelqu'un va dire, subhanallah, il a dit, Allah ne veut par là que les châtier ici-bas. Comment qu'il les châtie en leur donnant des enfants et des châteaux et des bienfaits? La réponse, c'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala veut les laisser dans l'insouciance, car la personne qui fait des péchés, plus Allah ta'ala lui ouvre les portes, qu'est-ce qui lui arrive? Plus il lui ouvre les portes, plus elle devient insouciante et elle oublie qu'il y a qu'il y a paradis, qu'il y a enfer, qu'il y a la tombe. Elle est noyée dans quoi? Dans yani, ses bienfaits. C'est pour ça qu'on a des fois, dans beaucoup de cas, quelqu'un revient, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne des bienfaits ou bien il lui donne des malheurs? Il lui donne une maladie. Il lui donne un accident. Il lui prend quelqu'un de très cher. Et comme ça, pour que la personne se réveille. Mais si maintenant tu fais dépêcher Allah subhanahu wa ta'ala, t'ouvres les portes, ça veut dire que c'est grave. Mais bien sûr, quelqu'un qui est dans l'autre, à côté de la plaque, tout à fait de l'autre côté, il peut pas, il connaît pas des choses pareilles. C'est le contraire. Il dit, moi, si Allah ta'ala m'a donné tant d'enfants et de richesses, c'est qu'il m'aime. Non. On va ajouter autre chose. D'ailleurs, je connais une personne qui vit comme ça dans l'aisance et ce qu'on appelle dans la crème. Elle vit haut, avec les riches qui vit comme ça, comme à l'européenne. Et Allah n'est rien. Elle a dit une fois, une autre personne lui a dit, elle lui a dit, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Elle lui a dit, l'autre, pourquoi il vous aime? Comment tu sais comment on est riche? Regarde les autres, Zahmé, ils font la prière et ceci, cela. Regarde, ils sont pauvres. Donc, celle-là, Iskina, elle est tombée dans le piège, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Non, elle est tombée dans le piège. Allah Ta'ala veut lui faire croire que on est donc elle est bien. Et comme ça, elle va continuer de dire, je suis bien, je suis mashallah, jusqu'à ce qu'elle meure, et non, sans tawba, sans avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Ta'ala veut bien, il lui donne quoi? Il lui donne un malheur ou quelque chose comme ça pour le réveiller. Non. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, rapporte, il a dit, je suis entré chez Haroun Rachid. Je suis entré chez Haroun Rachid. Qui m'a dit, ô Abou Ishaq, tu jouis d'une position et d'une honorabilité, mashallah. Je lui ai répondu, ô commandeur des croyants, cela ne me sera d'utilité dans l'au-delà. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sofiane ibn Uyayna rapporte, je suis entré chez Haroun Là, chez des croyants. Il m'a dit, oh Abou Ishaq, lui d'une position et d'une honorabilité. Yani, mashallah, tu as une position, mashallah, et tu es très, très honorable. Je lui ai répondu, oh Amir al-Mu'minin, cela ne me sera d'utilité dans l'au-delà. Naam, dans l'au-delà, le fait que j'ai une bonne position ici et une honorabilité et que je sois parmi les plus proches du commandeur des croyants, par exemple. Ça va me servir yawm al-qiyamah? Est-ce qu'Allah Ta'ala va me dire parce que tu avais une bonne position et que le commandeur des croyants t'aimait, etc. Je vais te rentrer au paradis et je vais te pardonner. Je vais t'épargner de l'enfer. Non, rien de cela. Il lui a dit, cela ne me sera d'aucune utilité dans l'au-delà. Naam. Imagine-toi que le président de la République te dise une chose pareille. Il t'invite et qu'il te dise, tu es vraiment chez nous très aimé. Tu es très rapproché de nous. On t'aime beaucoup, hein. Tu sais, hein. Tu es quelqu'un qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir, yani, de la joie. On va sentir de, je ne sais pas quoi, qu'on est mieux que les autres, qu'on est favorisé, et ainsi. Mais les selfs, non. Non. Le commandeur des croyants, il lui dit, tu as une position et une honorabilité. Il dit, ah, et on, à quoi ça sert? Est-ce que ça va me servir au quatrième? Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, la peur que l'œuvre ne soit pas acceptée est plus difficile que l'œuvre elle-même. Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, la peur que mon œuvre, quand je fais une œuvre, ne soit pas acceptée est plus l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, c'est facile d'œuvrer, mais est-ce que tu as la peur qu'elle ne soit pas acceptée? C'est ça l'essentiel aussi. Œuvrer, œuvrer, c'est mashallah. Les œuvres vont être des causes pour entrer au paradis. Allah Ta'ala a dit, wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala a dit, et le jour de la résurrection, on va dire, on va appeler comme ça, wa nudu, ce paradis, vous les méritez pour les œuvres que vous avez faites. Hakda. Il a dit, bima kuntum ta'malun, pour les œuvres que vous avez faites. Les œuvres sont quoi? Sont un sebeb, une cause. Mais, quand tu fais une œuvre, est-ce que tu as des soucis et tu te dis, j'ai soit pas accepté? Ou bien tu as la fatuité et tu dis, ah, moi, tout ce que j'ai accepté. Ah, je suis pas été accepté. C'est pour ça qu'il a dit, la peur que l'œuvre ne soit pas acceptée, c'est plus difficile d'avoir cette cause que l'œuvre elle-même. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. C'est-à-dire, il est en train de faire les éloges à certains gens. Il a dit, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux qui donnent, c'est pas le fait de donner seulement, mais faire des choses et des œuvres, etc., alors que les cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, sont pleins de crainte? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'imam, a dit, ce verset, يُعْطُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ مَا أُوتُوا مِنْ كُلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَعَ هَذَا قلوبهم وجلة أي خائفة خائفة عند عرض أعمالهم عليه سبحانه عز وجل والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله. حسن بصري رحمه الله دي en expliquant le verset où il dit ça, il donne ce qu'il donne, il a dit, c'est-à-dire qu'ils font pleurer possible zakat, aumône, et malgré cela leurs cœurs sont craintifs du fait que leurs œuvres seront exposées devant Allah et ils ont peur que leurs œuvres ne les épargneront pas du châtiment d'Allah. Allahu Akbar. Naam. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui sont pieux. Font ça, la zakat, tout ce qu'ils font, malgré cela, toujours craintif. Avec un cœur craintif, peut-être que mes œuvres, demain, quand elles vont être exposées devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai peur qu'elles ne vont pas être acceptées. Et par conséquent, elles ne vont pas m'épargner du châtiment d'Allah wa ta'ala. Naam. Et dans le même contexte, Taïb, dans le même contexte, Ibrahim ibn al-Ash'ath, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Zayd ibn Al dire, qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel il t'a abhorré et pour lequel il a fermé devant toi les portes du pardon, alors que toi tu ris. Comment penses-tu que sera ta situation? Ibrahim ibn al-Ash'ath, rahimahullah, a dit, j'ai entendu Fadhil ibn Ayyad. Dis-moi, qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel il t'a abhorré, détesté et haï, et pour lequel il a fermé pour toi les portes du pardon, alors que toi tu es là en train de dire. Comment penses-tu que sera ta situation? Non. Tu ris du mal. Qui te dit que tu n'as pas fait un acte qui a que Allah subhanahu wa détesté et qui t'a fermé les portes? Alors que toi, du matin au soir, tu ne cesses de rire et de rigoler. Au lieu de penser un peu, yani, à faire des choses qui plairaient à Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner et t'épargner de son châtiment. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, compte parmi les plus grands fous, vois-moi, que de persister dans les péchés en espérant le pardon, sans regret. Compter la proximité vis-à-vis d'Allah, sans faire d'obéissance. D'attendre la récolte du paradis par la semence de l'enfer. De demander la demeure des obéissants par les péchés. D'attendre la récompense sans œuvrer. C'est sur la désespérance tout en tombant dans l'outrance. Yahya ibn Mu'adh a dit, compte parmi les plus grands fourvoiements que de persister dans les péchés en espérant sans faire de regret. Discompter, tu es discompté vis-à-vis d'Allah alors que tu lui obéis pas. Tu attends la récolte du paradis alors que tu sèmes des choses de l'enfer, tu fais des péchés. Tu demandes demeure désobéissant en faisant des péchés. Et tu portes sur Allah des espérances tout en tombant dans l'outrance et la turpitude et les grands péchés. Subhanallah. Ça rentre vraiment dans les grands fourvoiements. Naam, ça rentre dans les grands fourvoiements. Al-Maroudi, rahimahullah, a dit, Al-Imam Ahmed, rahimahullah, lui a dit, combien sont nombreux ceux qui invoquent en ta faveur? Alors Ahmed répondit, je crains que ce soit une manière de m'amener progressivement à la perte. Naam. Les salafs n'aimaient pas qu'on leur faisait des éloges. Al-Maroudi, un contemporain, l'imam Ahmed lui a dit, oh, combien sont nombreux les gens qui invoquent en ta faveur. Alors Ahmed répondit, je crains que ce soit une manière de m'amener progressivement à la perte. Naam. Tu me dis des choses comme ça, hein? En fait, c'est pas bien. Ça m'emmène progressivement à la perte. Quand je vais me dire que, oh, mashallah, je suis mashallah, hein? Tout le monde en ma faveur, tout le monde m'aime, tout le monde parle de moi en bien, tout le monde me fait des éloges, mashallah. Alors qu'en fait, ce n'est pas bien. Progressivement, ça amène à la perte. Non. C'est pour ça, puisqu'on est de fatigué. D'ostentation, etc. Je me souviens une fois, quand j'étais au Koweït, une sœur m'a contacté. Il m'a dit, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer une chose? Lui, c'est quoi cette chose? Elle m'a dit, elle est témoin qu'il m'avait donné une science Yani vraiment, mashallah. Yani quand je parlais dans le Coran, hadith, tafsir, mais quoi? Mais subhanallah, un jour, elle faisait des halaqat, donner des cours, etc. à la mosquée. Un jour, je me suis levé le matin, j'ai trouvé que tout a été effacé de mon cœur. Vous voyez un tableau? Quand on écrit sur un tableau, on écrit par exemple sort à une patte. Ensuite, on penche et on efface tout. Il n'y a aucune lettre sur le tableau. Elle m'a dit comme ça, une fois, je me suis réveillé le matin, il n'y avait plus dans mon cœur ni verset, ni hadith, ni ce qu'ont dit les savants, rien, 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 rien. Comme quelqu'un qui peut-être est koufar. Je lui ai dit, subhanallah al-azim, qu'est-ce que tu fais? Eh, non, tu as fait toi. Elle m'a dit, mais je sais pourquoi. Et je lui dis, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de parler d'un. L'ujub, le ghurur, la fatuité, l'orgueil, la vanité, l'ostentation. Elle m'a dit, je ressentais tout cela dans mon cœur. Quand je faisais des cours ou j'étais avec des sœurs ou bien, je sentais que j'étais meilleur. Et je me disais, je suis la plus, celle qui a le plus de science, la plus pieuse. Et au point que je ne permettais même pas aux sœurs de parler. Si quelqu'un parle, je lui dis tais-toi, tu n'as pas de science. C'est moi qui ai la science. C'est moi ceci, c'est moi cela. Subhanallah al-Azim. Et Allah l'a puni et lui a enlevé tout, 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 tout. Car ce qu'elle avait n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pour les gens. Mais ce qui m'a plu en cette sœur, ce qui m'a plu en elle, c'est que elle est reconnue cela, la preuve. C'est elle qui m'a dit, elle m'a dit, voilà comment j'étais, comment j'étais. Donc je me suis dit, et je lui ai dit aussi, je lui ai dit, ça, Inch'Allah, c'est une preuve de la sincérité. C'est une preuve que tu as regretté. C'est une preuve que tu voudrais y aller, tu as des remords. C'est une preuve que tu voudrais y aller faire la tawba. Et je lui ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et nous guide davantage. Et nous guide davantage. Donc vous voyez, pour les personnes y aller, qui disent, il n'y a pas plus que moi, il n'y a pas mieux que moi, il n'y a pas ceci. Tous ceux-là et celles-là n'iront pas loin. Yahya ibn Maysara a dit, Yahya ibn Maysara a dit, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un témoigne de ta piété face à toi, réprouve cela. Mets-toi en colère. Ne l'accepte pas et dis, oh Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent. Et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Allahu Akbar. Maysara a dit, écoute, si quelqu'un témoigne de ta piété face à toi, réprouve cela. Mets-toi en colère, cela. Et dis, Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent. Ne me châtie pas pour ce qu'ils disent. Et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Naam. Si quelqu'un commence à te faire des éloges face à toi, si tu n'es pas présent, il te fait des éloges, tu n'es pas présent, maalesh. Mais quand tu es présent, quelqu'un commence à te faire des éloges, réprouve cela. Mets-toi en colère. N'accepte pas. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te châtie pas pour ce qu'ils ont dit. Et demande-lui de te pardonner ce qu'ils ne savent pas. Car en fait, ils ne savent pas. Naam, ils ne savent pas. S'ils savaient comment qu'on était vraiment, personne n'aurait fait d'éloges à une autre personne. Comme disaient certains salafs. Il disait, Alhamdoulillah, que les péchés n'ont pas d'odeur. Si Allah Ta'ala avait donné de l'odeur aux péchés, personne ne se serait assis avec une autre personne. Naam. Si les péchés avaient de l'odeur, tu ne pourrais t'asseoir avec aucune personne, même les plus pieux. Pourquoi? Les plus pieux font aussi des fautes. C'est pour ça qu'il a dit, Ya Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Pardonnez-moi les péchés. Et yani, l'hypocrisie que j'ai, ceci et cela, qu'ils ne savent pas. Naam. Donc, c'est pas bien de quoi de faire des éloges à quelqu'un comme ça en face de lui. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le Miqdad ibn al-Aswad, que le prophète a dit, Ida al-Maddahin, ahthaw fi wujuhim turab, rapporté par Muslim, il a dit, alayhi wa sallam, si vous voyez, c'est-à-dire rencontrer ceux qui font, jetez-leur de la terre sur leur visage. Et comme ça, une fois, il y avait quelqu'un qui faisait des éloges à une autre personne. Et il y a un sahabi qui s'est levé comme ça et a commencé, c'est Abdullah ibn Omar, a commencé à lui jeter comme ça de la terre sur sa bouche. Et il a cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez ceux qui font des éloges, voilà, et s'il te fait à toi. Alors jette de la terre sur son visage. Sur son visage. Naam. Contrairement à qui? Contrairement à ceux qui aiment lorsqu'on leur fait les éloges. Ça, naam. Justement, c'est ça, c'est un signe, c'est un signe. Si tu aimes que les gens te fassent des éloges, naam, et que ça te plaît, et que tu encourages, sache que vraiment, yani, tu as, sache que vraiment, tu n'es pas sur le droit chemin, du moins dans cette chose. Attention, là, je veux dire, c'est important. Il est possible que quand on vous fait des éloges, il est possible que la personne, ça lui plaise dans son cœur. Allah Ta'ala dit que Banu Adam, le fils d'Adam, a été créé comme ça, faible. Donc il est possible que quelqu'un te fasse des éloges, que tu acceptes. Afoun, que ça te plaise dans ton cœur. Mais du moins, essaye de l'arrêter, comme a dit le hadith. Si tu lui jettes pas de la terre sur le visage, au moins, arrête-le. Dis-lui, Barakallahu fik, ça suffit, ou la terre est de là. Et ne l'encourage pas. Ne l'encourage pas à ce qu'il n'arrête pas et à ce qu'il a, il dit aux gens, et ceci, et cela, et cela. Wallah al-Azim, j'ai entendu une fois Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, un de ses élèves, un de ses élèves, dans une cassette, il lui a dit, Cheikh, voilà, j'ai écrit quelque chose sur vous, sur ceci, cela. Est-ce que je peux vous le faire entendre? Il lui dit, Cheikh, tfadal. Et il a commencé. À peu près en ce sens, hein, à faire des éloges à Cheikh Ibn Uthaymeen. Ah, Cheikhana, kada ou kada, l'allama, djihbad, ah, ceci, cela. Wallah el-Azim. À chaque mot qu'il disait qui n'était pas bien, qui contenait des éloges, arrête. Non, enlève ça. Dis ceci à sa place. L'autre, il enlève, il dit autre chose. Deuxième mot. Ya, Cheikhana, arrête. Il lui dit, ne dis pas ceci. Enlève ce mot, dis un autre. Et lui donne l'autre. Subhanallah el-Azim, l'autre, l'élève. N'a pas pu yani, aller plus de 10 minutes où là il a arrêté. Il voyait que vraiment yani, il lui a tout corrigé. Subhanallah. Imagine si c'était nous. Hein? Oh, masha'Allah, je lui dis, oh, masha'Allah, oui, je suis comme ça. Allahu Akbar. Masha'Allah, continue. Masha'Allah. Hein, je lui dis, ensuite je lui fais les éloges, je lui dis, toi aussi tu es masha'Allah. Parce qu'entre parenthèses, tu m'as fait des éloges. Ah, toi aussi, tu es mashallah. Donnez-lui quelque chose. Mashallah, il est mashallah. Subhanallah, quand il n'y a pas quoi? Quand il n'y a pas l'ikhlas. Quand il n'y a pas la sincérité. Naam. Abu Wahb rapporte, Abu Wahb rapporte. Il a dit, j'ai interrogé Ibn al-Mubarak, rahimahullah, concernant la fatuité. C'est quoi la fatuité, Adi? Dis-moi, c'est quoi? Il lui a dit, elle consiste à ce que tu peux posséder une chose que personne d'autre ne possède. C'est simple. C'est très simple. La fatuité. J'ai interrogé concernant la fatuité. Il m'a dit, est-ce que tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède? Non. Si tu sens dans ton cœur que tu as atteint un degré que personne d'autre n'a atteint, tu as la fatuité. Tu penses dans ton cœur que tu es le plus pieux, fatuité. Tu penses dans ton cœur que tu es le plus courageux, tu as la fatuité. Tu penses que tu es le plus généreux. Tous les autres, ils font pas l'aumône. C'est toi le plus généreux. Tu as la fatuité. Et comme ça. Tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède, sauf toi. Ça, c'est Shaitan qui joue de toi. Shaitan qui joue de toi. Ibn Uyayna, rahimahullah, a dit, il a dit, celui dont le péché est lié au désir, espère pour lui, celui-là espère pour lui. Quant à celui dont le péché est à l'orgueil, crains pour lui. Pourquoi? Car Allah Azzawajal, afoun, car Adam, alayhi salam, a désobéi par le désir et on lui a pardonné. Alors qu'Iblis, Iblis, a désobéi par orgueil et il a été maudit. Subhanallah. Ibn Uyayna l'a dit, celui dont le péché est lié au désir. Qu'est-ce que ça veut dire le péché lié au désir? Il y a deux sortes de péchés. Un péché qui vient à des tentations. Il a dit, celui qui fait un péché par des tentations, comme l'alcool, les femmes, la drogue, il a dit, celui-là, espère pour lui. Espère que, Inch'Allah, il fera la tawba, il reviendra. Quant à celui qui fait un péché lié à l'orgueil, à l'orgueil, celui-là craint pour lui. Pourquoi? Car Adam alayhi salam a désobéi par tentation et on lui a pris la manger. C'est une tentation. On lui a pardonné. Alors que le shaitan a désobéi par orgueil. Il a dit non, moi je me prosterne pas. Qui c'est celui-là, Adam? Je suis mieux que lui. Il a été créé de terre, je suis créé de feu. Alors il a été maudit. C'est pour vous dire la gravité quand il vient du côté de l'orgueil et de la fatuité. Et que, alhamdoulilah, si le péché vient des tentations et des désirs, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir pour y en y revenir vers Allah. Tayyib. Amir ibn Qais, ibn Abd Qais a dit, suis-je parmi les habitants du paradis? Les gens comme moi entrent-ils au paradis? Subhanallah. Amir ibn Qais a dit, suis-je parmi les habitants du paradis? Les gens comme moi entrent-ils au paradis? Je pose des questions. Des gens de ma sorte, yani, peuvent rentrer au paradis? Veut dire par là des gens, yani, qui font des péchés. Des gens qui ne sont pas sincères comme ça à 100%. Naam. Est-ce que des gens comme moi peuvent entrer au paradis? Subhanallah. Peut-être qu'une autre personne parmi nous, elle est sûre d'être au paradis. Et de dire que je suis sûr que je serai. Que même je serai yani, avec les prophètes. On dit à quelqu'un, yani, comment tu sens ton iman? Oh, il dit, Masha'Allah, comme le iman, comme la foi inébranlable. De se dire comme ça, c'est vraiment loin. C'est vraiment un âme. C'est pour ça qu'on va terminer avec cela. Un homme a dit à Al-Ala ibn Ziyad, il lui a dit, je t'ai vu au paradis. Je t'ai vu au paradis, c'est-à-dire dans le rêve. Je t'ai vu au paradis. Il lui répondit, malheur à toi. Satan, n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi et moi pour ce mot? Allahu Akbar, comment qu'il lui a répondu? Un homme a dit à Ali ibn Zayd, je t'ai vu au paradis dans le songe. Il lui a répondu, malheur, le shaitan, n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi et moi pour se moquer? Hein? Le shaitan, il n'a trouvé personne sauf toi pour venir yani, te faire montrer. Yani, il n'a trouvé aucune autre personne aussi que moi pour te dire que si on va aller au paradis, il va dire Taqillah subhanahu wa ta'ala, Taqillah. Taqillah, moi tu me vois au paradis, Taqillah. Non. Par Allah l'Azim, tellement ils avaient la modestie, tellement ils avaient la peur d'Allah, tellement, tellement. Et c'est ceux-là, yani, qui, inshallah ta'ala, seront les premiers au paradis. Non. Ceux-là seront les premiers, bi'ilnillah, subhanahu wa ta'ala, au paradis. Voilà, inshallah, j'ai terminé pour le cours d'aujourd'hui, bi'ilnillah, subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes déjà prêts pour les questions, on peut déjà commencer, bi'ilnillah ta'ala. Je veux dire par là les questions du cours. Si vous voulez qu'on commence par les questions du cours, توكلوا على الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة. J'allais vous proposer une chose, mais j'allais vous dire, sinon c'est vous qui posez les questions aujourd'hui, cher, jusqu'à Saad Teisha, pour voir si les gens ont été attentifs, comme les interrogations surprises à l'école. Lakin, je sais que ils vont tous se déconnecter, sinon Allahu a'lam. Donc je vous pose la première question, cher Inch'Allah. Et après, c'est vous qui voyez. Donc la question d'un frère, Allahu A'lam, qui dit, cher qu'Allah vous présente.
Alaykoum salam. En fait, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu viens de dire? Tfadlal.
En fait, j'allais vous dire, cher, de poser des questions pour voir si les gens ont bien suivi. Par exemple, sur une faïda que vous avez évoquée ou autre, et dire un tel, et s'il a la réponse ou pas, comme vous avez l'habitude de faire, cher.
Donc si j'ai bien compris, c'est moi qui pose les questions ou bien toi tu as quelques questions et en est préparé. Tfadlal.
Pour le moment, j'ai une question préparée, cher. Et j'ai dit que j'allais vous proposer de faire une interrogation pour voir si les gens sont en train de suivre ou s'il y a juste le nom de présent. Donc, comme vous voulez, cher.
Mais allez, je pose ta question là, peut-être que ça va m'encourager à en poser d'autres, premièrement. Deuxièmement, sans toutefois raider les gens. Car si tu vas les raider, yani, toutes les mains vont descendre. Donc, si une personne a la réponse, je ne sais pas comment yani, savoir que elle répond. Tfadlal.
On pourrait par exemple faire en sorte que la personne envoie la question à un admin, Tawfiq ou la Fawzi, par exemple. Donc, cher, la première question, qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que les admins et tous ceux qui suivent vos cours. Comment en vouloir à ceux qui nous font des éloges, jusqu'à même leur jeter de la terre au visage, alors que le pire mal que nous puissions leur reprocher, c'est l'ignorance. Nous pouvons rejeter ce qu'ils disent et ce qu'ils font, mais comment les blâmer, eux? Alors que c'est de l'ignorance, cher. Barakallahu fikoum.
Il y a deux choses. La première, j'ai pas bien compris la question, elle a dit, c'est possible de la répéter. Et la deuxième, je t'avais dit, peut-être tu m'as pas entendu, de poser ta première devinette. Tu l'as pas posée. Fadlal.
Parce que je me suis dit, cher, que ce serait peut-être à mettre en place pour les prochaines fois, Inch'Allah. Donc que les gens y soient prêts. Faut pas venir à l'akhda. Donc j'ai préféré vous poser une question sur le cours, Inch'Allah, pour pas perdre de temps. Donc comme vous voulez, cher.
C'est quoi la question donc, la première?
Madame, cher, donc la question d'un frère ou d'une sœur, Allahu alam, qui vous a dit comment vouloir à ceux qui font des éloges? C'était par rapport au hadith du fait de jeter de la terre au visage. Donc comment, cher, on va leur jeter de la terre au visage alors que ce sont des ignorants. Donc ils sont ignorants et on les punit. Donc c'est ça l'objet de la question, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Celui qui a posé la question, qui a dit de parler d'ignorants? Qui a dit ici que le hadith parlait de gens ignorants? Peut-être le hadith des gens qui savent. Qui savent qu'on ne doit pas faire cette chose, et malgré cela, ils le font. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, savent qu'il ne faut pas faire les éloges. Et moi, il veut. Ensuite, supposons que je ne sache pas maintenant cette personne si elle est Naam, je peux la corriger. Je peux la corriger en lui disant que pas faire des éloges à la personne, sauf s'il y a. Parce que j'ai pas cité, mais certains ont été permis avec certaines conditions. Donc je dis à la personne, en même temps je lui apprends, je lui dis que voilà le prophète, il faut pas faire des éloges, etc. Et la personne, inshallah ta'ala, n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'elle était ignorante. Donc je lui apprends. Non. Maintenant, si je veux lui jeter de la terre sur sa bouche ou là sur ce visage, son visage, comme a dit le hadith. Que je le fasse à une personne qui sait, qui fait exprès, yani pour désobéir. Or, je le fais à une personne qui est proche de moi, comme mon enfant, un ami, et comme ça, qui je sais que yani va accepter ça de moi. Ensuite, je lui dis, ça, je l'ai pas fait de ma tête, il y a un hadith qui dit comme ça. Naam, tfadlak.
Cher, deuxième question d'une sœur. Est-ce que lorsque l'on reçoit des compliments par rapport à une récitation de Coran, par exemple, et qu'on ressent de la fierté et qu'on aime ça, est-ce que cela est mauvais, cher? Qu'Allah vous récompense.
Non, ça c'est pas mauvais, inshallah ta'ala. M'a fait un compliment. Je donne un exemple. Dans Sahih al-Bukhari, il a été cité qu'ils étaient en groupe quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Il avait dans sa main Jummar. Jummar, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on enlève d'un palmier, un dattier, celui qui donne les dattes. C'est quelque chose qu'on enlève comme ça. Je n'ai jamais vu. Et c'est pas, ça donne pas des dattes. Mais ça donne quelque chose de sucré. Qu'on mange d'un dattier. Parce que le dattier, à part les dattes qu'il donne, certains morceaux, certains petits morceaux comme ça, sont sucrés aussi. Sont sucrés aussi. Ça s'appelle Jummar. Quand le prophète alayhi est arrivé en train de dire le Jummar du palmier. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam aux sahaba qui étaient présents. Il y a un arbre qui ressemble aux musulmans. Il y a un arbre qui ressemble aux musulmans. Le hadith al-Bukhari, bien. Alors, ils ont commencé. L'un il dit c'est l'oranger. L'autre il a dit, par exemple, là, des exemples, il a dit le cerisier. L'autre il a dit ceci. L'autre il a dit cela. Père, c'est quoi que c'était le dattier ou le palmier? Ensuite, le prophète Islam leur a dit. Leur a dit, c'est le. Ensuite, quand ils se sont quittés, il y avait dans l'assemblée, entre autres, il y avait Omar ibn Khattab. Radiyallahu ta'ala, et son fils Abdullah ibn Omar. Quand ils marchaient ensemble, Omar ibn Khattab avec son fils lui a dit, oh, Abi, je connaissais la réponse, mais yani, j'ai pas. J'ai pas pu dire ça de honte. Si seulement tu avais dit ça, si seulement tu avais répondu comme ça devant le prophète al-Islam et les Sahaba, si tu avais répondu, c'est pour moi mieux que yani, les plus belles chamelles. Autrefois, quand on dit les belles chamelles, ou là, les chamelles rouges, vous savez que c'est tout ce qu'il y avait de plus beau dans leur vie. Ici, Naam, Abdullah, le grand Sahaba, avait aimé que son fils réponde et dise, je connais la réponse. Pour que le prophète islam lui dise, Naam, barakallahu fik, et ceci, cela. Naam, il lui a dit, ah, mon fils, pourquoi tu n'as pas dit ça? J'aurais aimé que tu dises la réponse devant tout le monde comme ça, islam, et yani, pour que tu sois complimenté. Donc, inshallah ta'ala, il n'y a pas de mal en cela. Ensuite, une chose, pourquoi le prophète islam, a fait ressembler le musulman, le croyant disant, au dattier. Pourquoi? Au moins pour une raison, au moins pour une raison, quand tu frappes le dattier avec des cailloux, il te donne une datte. Toi, tu le frappes avec et lui, c'est la datte qui tombe. Pour dire un peu que le musulman, Nam, il ne contient que du bien. Il est tout bien. Naam. La preuve, tu lui as fait quelque chose de mal, il te répond en quelque chose de bien. Naam. Tfadal.
Barakallahu fikoum, cher. Je passe à la question suivante. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense pour ce cours. En fait, je n'ai pas de question, mais une remarque. Sauf erreur de ma part, cher n'a pas expliqué les deux dernières.
Puisque le frère a posé le hadith, il a dit Rawal Bukhari et Muslim, An Ubaydillah ibn Omar, An Nafi, An ibn Omar. Il a dit, on était chez le prophète, quand il a dit, Akhbiruni, informez-moi, Shajara, d'un arbre, Tushbih, qui ressemble au Rajul Muslim, au musulman. Il a dit, La yatahat waraqwa, ses feuilles ne tombent pas. Et ceci et cela, et ceci et cela. Tu'ti ukula kullahin, et elle donne yani, ses feuilles tout le temps. Qala ibn Omar, le fils de Omar Oukta, a dit, Fawaqa fi nafsi anna nakhla. Inspiré donc mon cri le pandatier. Wa ra'aytu Omar la yatakallaman. J'ai vu que comme Abu Bakr ne parlait pas et Omar ne parlait pas, fa kallam. Donc j'ai pas osé parler. Falamma lam yaqulu shay'an, lorsqu'ils n'ont rien dit, alors qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit hiya an-nakhla. C'est le datier. Falamma qumna, lorsqu'on s'est levé, j'ai dit à Omar, Oh, Wallahi, laqad waqa'a fi nafsi an-nakhla. Wallahi, que ça m'a été inspiré dans mon cœur que c'était le dati. Faqala, il m'a mana'aka an tatakallam. Qui t'a empêché de répondre? Qala, lam arakum tatakallamun, fakarihtu an atakallam, ou aqula shay'an. Comment, yani, vous les grands, vous n'avez pas parlé, et moi, yani, je vais parler, j'ai pas osé. Qala Omar, la antakuna qultaha, ahabu ilia min kada wa kada. Si tu l'avais dit, savoir que telle et telle chose, telle et telle chose. Non. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Je vais juste dire que je vais baisser les mains de ceux dont j'ai récupéré les questions, Inch'Allah. Donc si vous voyez votre nom disparaître, ne vous inquiétez pas. Donc la question que j'allais vous poser, cher, était la remarque de la sœur plutôt, qui dit, cher n'a pas expliqué les deux derniers points de cette parole d'Al-Hassan rahimahullah, sauf erreur de sa part. Al-Hassan a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent? Combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse? Combien sont trompés par le fait que leur péché soit dissimulé? Barakallahu fikoum, cher.
Naam, barakallahu fi à la personne. Pour comment appeler cela, car j'ai oublié, naam, j'ai oublié, j'ai sauté sans faire esprit. Donc je cherche où ça se trouve. Je cherche où ça se trouve. J'ai pas encore trouvé. Comment ça commence? Ça commence par quoi? Taïb, je trouve maintenant. Hassan a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la dont ils jouissent. On a expliqué ça. Ensuite, combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Combien de gens, naam, sont éprouvés par dire, il est masha'Allah, alhamdoulilah, il veut avancer, il veut ceci. Quelqu'un qui vient commence à lui faire des éloges. Et il l'éprouve. Allah l'adim, ensuite c'est le shaitan qui va rentrer dans son cœur, il va lui dire, tu vois, tu es masha'Allah, tu es ceci. Il va lui faire rentrer l'infatuité dans son cœur et l'ostentation. Alors l'ostentation, c'est grave. J'étais masha'Allah et celui-là, maintenant il m'a fait une épreuve. Il m'a fait des problèmes, il a commencé à me flatter au point où, yani, shaitan maintenant est rentré dans mon cœur. Naam. Et il a dit, combien sont trompés par le fait soit dissimulé. Les péchés, personne ne peut les voir. Naam. Ils sont dissimulés. Et nous, quand on voit une personne, on est donc masha'Allah, puisqu'on ne peut pas voir les péchés. Quand elle est seule, on sait. Naam. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes nous trompent. On croit d'eux que ils sont masha'Allah, etc. Alors qu'en fait, si l'odeur avait des péchés, personne soit avec une autre personne. Pour là, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim, maintenant il appelle à la salat. On doit, inshallah ta'ala, partir pour salat l'Isha et revenir dans une demi-heure, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. On commence, inshallah ta'ala.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Je passe à la première question, cher, sur le cours. Une question d'un frère qui dit: cher, cela m'arrive souvent de faire des éloges à mon mari ou à ma mère. Par exemple, en leur disant: tu es généreux, tu es patient, etc. Ils sont gênés, certes, mais dois-je éviter cela? Et d'une manière générale, cher, est-ce qu'on doit faire un compliment à une personne? Face à face, par la comme cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tout à l'heure, quand je faisais le cours et j'avais dit que, et c'était aussi le hadith qu'il était interdit de faire des éloges à une personne comme ça en face, à cause du hadith, j'avais dit, si vous vous rappelez, j'avais dit que certains ont dit que c'était permis s'il y avait des conditions. En fait, la condition, c'est quoi? C'est que certains ont dit que si on fait des éloges à quelqu'un en sachant que ça va pas l'éprouver, yani, ni le faire entrer dans des problèmes. On sait que, yani, disons que ça lui fait pas de mal, ça lui cause pas de mal. Hein, ils ont dit c'est permis. Et ils ont cité des hadiths, des dalils aussi, que je n'ai pas maintenant là avec moi. Comme le prophète islam a dit comme ça à des gens, yani, en face d'eux, yani, que je donne un exemple. Maintenant, je me rappelle une chose. Par exemple, en parlant de Abdullah ibn Omar, il a dit: ni'ma rajul, tu es ni'ma, toi, tu es une personne ni'ma, tu es masha'Allah. Il lui a dit, sauf que tu fais pas la prière de la nuit, par exemple. C'est quelque chose que je viens de me rappeler maintenant. Sinon, il y a beaucoup de délits comme ça, où yani, le prophète sallam et les sahaba disaient à certains comme ça en face, yani, tu es ceci, tu es cela. Alors les savants ont dit, ça ne contredit pas le hadith, mais c'est dans le cas où on est sûr que la personne, inshallah ta'ala, ne va pas être, yani, ébranlée. Naam. Et si vous voulez, inshallah ta'ala, rappelez-moi, le prochain cours, je vous ramène de plus amples détails. Tfadlak.
Barakallahu fikoum cher. Et justement, je voulais vous rappeler par rapport au cours précédent qu'on vous avait posé une question concernant le jeûne du mois de Ramadan. Fouzi vient de le rappeler. Comme quoi en France, on leur avait déjà dit que le Ramadan sera le 9 juillet et que cette année, il y aurait 31 jours. Et vous aviez dit que vous alliez nous en parler à peu près, inshallah, cher. Je pense que vous alliez nous parler de Ilm al-Falak, Allahu a'lam.
طيب est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah. Donc j'ai tardé juste un peu, je cherchais un hadith, comme je vous disais tout à l'heure, pour yani, pendant qu'on est dans le même sujet, j'ai dit il vaut mieux que je leur donne maintenant le hadith. طيب. Donc c'est dans Sahih Adab al-Mufrad de Sheikh al-Albani rahimahullah. Il y a un chapitre qui s'appelle Babu man athna ala sahibihi in kana aminan bih. Une seconde, je vous copie hada. Je vous copie. Regardez. Donc, chapitre Bab ma ala sahibihi. Chapitre, yani, le fait de faire des éloges à son ami in kana aminan bih. C'est-à-dire que c'est permis s'il est sûr que yani, il est en sécurité, qu'il ne va rien lui arriver. Il a cité un hadith numéro 139. Cheikh Al-Albani a dit authentique. An Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu. Naam. Attendez, je vais copier le hadith, c'est mieux. Naam, je le copie, inshallah ta'ala. Je vais le mettre comme ça, je le lis en même temps que vous le voyez. Donc voilà le hadith, il est là devant nous. Est-ce qu'il s'est affiché? Cheikh Al-Albani a dit sahih, d'après Abi Huraira, que le prophète a dit Ni'ma al-Rajul Abu Bakr, Ni'ma al-Rajul Omar, Ni'ma al-Rajul Abu Ubaid, Rajul Usaid ibn Hudayr, Ni'ma al-Rajul Thabit ibn Qais ibn Shammaz, Ni'ma al-Rajul Mu'ad ibn Amr, Ya'um al-Rajul Mu'ad. Ensuite il a dit Bi'sa al-Rajul, et le pire des hommes, c'est Foulan et c'est Foulan. Donc, quand il a dit Ni'ma ar-rajul, le meilleur des hommes, c'est Abu Bakr, Omar, etc., en leur présence, bien sûr. C'est pour cela que, dans le chapitre, du titre du chapitre, le fait de faire des éloges à quelqu'un, si on est sûr que yani, rien ne va lui arriver, inshallah. Tayyib, maintenant pour le ramadan, je voulais vous dire que yani, les savants, les contemporains, comment on va dire, ont rapporté le consensus d'après le consensus l'ijma, qu'a cité qui? Qu'a cité Cheikh l'Islam. Ils ont rapporté le consensus qu'a cité qu'il était interdit de jeûner avec un pays qui se base, ne se base pas sur la vision lunaire, mais qui se base sur les calculs. Qui se base sur les calculs. Et, attendez, je vais vous ramener très vite maintenant dans la fête, si vous voulez. Sinon, dans les prochains cours, j'allais vous parler du ramadan, bien sûr. Mais si j'ai maintenant la fête devant moi, attendez, j'essaie de savoir comment ça s'appelle, hein, de la fête. Bon, j'écris ramadan, je sais pas si ça donne ramadan. Une seconde. Ramadan, c'est un croyant. Non, c'est pas celle-là. Comment ça s'appelle en français? Qu'est-ce que je vais écrire? Ils ont annoncé 31 jours de Ramadan. Subhanallah, 31 jours. Subhanallah. J'ai dit, yani les savants ont dit qu'il ne faut pas jeûner avec eux. On a demandé à Cheikh Ben Othaymine ou quelqu'un, ou Cheikh Ben Baz, on lui a dit, on est au Canada et ici ils vont se baser sur les calculs. On a un centre qui se base sur le calcul. Comment tu fais pour jeûner? Il a dit ne jeûnez pas avec eux. Il a dit jeûnez avec le pays le plus proche. Il a dit, et si vous voulez, jeûnez avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui, yani, quand vous jeûnez avec lui, vous êtes sûr que il a appliqué la vision lunaire et non pas les calculs. Et vous, chez vous en France, vous savez que yani, il se base sur les calculs. Il vaut mieux les éviter. Ou l'Algérie. Vous pouvez jeûner avec l'Algérie pour la France. Wallahu alam. Mais l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus sûr. Fadal.
Barakallahu fikoum, cher. Je vous rappelle juste que vous ne m'avez pas ouvert votre PV. Donc je vous pose une question en attendant. Question d'ordre général d'une sœur qui demande: une femme peut-elle porter des talons à semelle compensée? Donc, cher, c'est des talons qui vont des orteils jusqu'aux talons, justement. C'est pas juste, comment vous expliquer, le piqué qui vient juste au talon. C'est-à-dire vers l'avant, les orteils seraient vers le bas et le talon serait surélevé. Là, c'est une chaussure qui fait que tout le corps est surélevé de quelques centimètres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cher. Donc, la sœur demande s'il est permis de porter de telles chaussures chez elle uniquement et surtout pour se faire belle pour son mari, sachant qu'il y a peu de risques de chute avec ses talons. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam. Premièrement, j'ai pas compris c'est quoi ce genre de. J'ai pas pu voir la chose dans ma tête. Mais ce que je voulais dire, ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, c'est que les talons c'est permis. C'est interdit à cause de du trafic. Naam. Car la femme, talon, elle a trafiqué. C'est-à-dire, pour les gens qui vont la voir, ils vont croire qu'elle est grande de taille, de telle taille, alors qu'elle ne l'est pas. C'est une tromperie, voilà. Et la première femme à avoir fait cela, c'était au temps de Benou Israël. Une femme est sortie entre deux femmes qui étaient grandes de taille. Elle était petite de taille. Elle a mis des sortes de planches comme ça, hein, sous. Yani, c'est comme. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut tenir qui sont en planche et yani, on peut marcher avec si vous voyez. Mais elle a mis ça sous les vêtements, bien sûr. Quand les gens ont vu, croyaient qu'elle était grande de taille, elle a mis du parfum, les échasses, voilà. Et depuis ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux femmes des enfants d'Israël d'aller à la mosquée et quoi encore? Et les a châtiées en leur donnant le cycle menstruel. Et les a châtiés en leur donnant le cycle Naam. Donc maintenant, si c'est juste avec son mari, Wallahu ta'ala alam, il ne me semble pas que ça soit interdit. Wallahu ta'ala alam. Tfadlak.
Désolé d'avoir pris un peu de temps, mais je triais les questions car certaines n'étaient pas sur le cours et étaient envoyées du côté de questions sur le cours. Donc, question d'une sœur qui demande, Cher, est-ce une autosatisfaction de soi et de l'orgueil de se dire que l'on est modeste et qu'on ne se fait pas d'éloges? C'est-à-dire que l'on sait qu'il faut se remettre en question, mais est-il possible que justement, en pensant trop cela de soi, on tombe dans l'orgueil? Je ne sais pas si vous avez compris, cher, barakallahu fikoum.
Walaykoum salam. En fait, la question n'est pas très claire, je la relis. Est-ce une autosatisfaction de soi et de l'orgueil de se dire que l'on est modeste et qu'on ne se fait pas d'éloges, etc. C'est-à-dire que l'on sait qu'il faut se remettre en question, mais il est possible que, justement, en pensant trop de cela, de soi, on tombe dans l'orgueil. Non, si la personne se dit d'elle-même qu'elle est très modeste, etc., elle peut tomber dans ce qu'on disait. Car en pensant d'elle qu'elle est modeste, etc., yani, c'est-à-dire qu'elle se fait des éloges indirectement. Bon, mais si ça arrive de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si la personne pense beaucoup à cette chose, tout le temps elle se dit dans son cœur, moi je suis très modeste, moi je suis ceci, cela, là, ça peut la faire entrer dans l'interdit. Wallahu ta'ala alam. Naam, tfadl. Assalamu alaikum, je me suis déconnecté. Je crois qu'il y a un problème dans le palto ce soir. Mouhim, est-ce que vous aviez posé une question? Est-ce que vous aviez posé une question? Non. Je voulais dire pour vous rappeler juste que si vous pouvez me débrouiller quelqu'un qui, si vous connaissez quelqu'un qui va venir en Algérie, disons d'ici 15 jours, un mois, il y a une sœur qui a envoyé une MNA pour certains gens. Gens auxquels j'ai parlé, il y a une MNA qui arrive de Lyon. De Lyon. Si quelqu'un me ramenait cette MNA, barakallahu fait. Mon frère vient d'Abs 15 jours. Mon frère vient dans 15 jours. Daam, alhamdoulillah. Donc, inshallah ta'ala, rappelle-moi de lui dire yani, comment contacter cette sœur bi'idhnillah ta'ala. Tayyib, tfadl, c'est quoi la question?
Barakallahu fikoum, cheikh. Donc, la question suivante était d'une sœur qui demande, enfin qui dit que c'est la question d'un frère. Et la question du frère est, ma mère est mécréante, elle m'a fait de la sorcellerie, j'ai failli mourir. Je n'habite pas avec elle. Et je voudrais savoir quel comportement adopter avec elle. Jazakumullahu khaira. Et on attend vos cours avec impatience et on remercie votre mère de vous avoir mis au monde par la grâce d'Allah. Qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi qu'aux admins et tous ceux présents. Amin.
Ben vous aussi, hein, pour ne pas me faire rentrer dans ce qu'on a dit dans le cours, pour ne pas me faire rentrer dans l'infatuité et de dire donc que mes cours sont mashallah et que les gens m'attendent et que ceci, donc moi je suis un savant, je suis ceci, je suis cela. Enfin, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Al-Muhim, une seconde. J'ai remarqué ces temps-ci, j'ai remarqué que sur le Paltalk, maintenant quand on l'ouvre, c'était pas co comme autrefois. Maintenant, il y a une fenêtre qui s'ouvre et tu vois des gens qui sont connectés par caméra. Tu vois 6 ou 7 ou 8 personnes, je sais pas, qui sont connectées. Là. Et malheureusement, ces gens-là sont pas toujours bien. Chacun se montre de sa façon. Il est habillé comme ceci, l'autre il est dénudé, l'autre, a'oudhou billah. Alhamdoulilah, donc je me disais, subhanallah l'adhim, comment faire maintenant avec ce problème? Alhamdoulilah. Tout à l'heure, j'ai cherché dans la, où est-ce, la configuration et j'ai trouvé, alhamdoulilah, que ça pouvait s'enlever. Ça pouvait s'enlever en décrochant certaines choses. Ensuite, on n'a plus, yani, ces photos, etc. Alhamdoulilah, je ne savais pas que ça existait, ça. Assalamu alaikum. Donc, je vous dis. Un problème sur le Paltalk. Mouhem, je voulais vous dire que j'ai découvert, alhamdoulilah, qu'il y avait un moyen comment enlever cette fenêtre, etc. Si vous avez des problèmes vous aussi avec cette fenêtre, demandez, inshallah ta'ala, je vous montrerai comment l'enlever, bi'illah ta'ala, surtout pour ceux qui ont le paltok en français. Car vous savez maintenant, c'est possible de l'avoir en français. En français, c'est mieux. On comprend tout et on sait ce qu'on est en train de faire. Taïb, puisqu'on me dit, si on me dit Naam, alimna bitariqa, ça veut dire montre-nous comment c'est. D'abord, une seconde, je vous ramène quelque chose, une seconde. Connexion. Une seconde, je ramène quelque chose d'ici. Je vous ramène un lien. Naam, je vous ramène un lien, inshallah ta'ala. Ce lien, c'est pour ceux qui n'ont pas le paltok en français. Ceux qui ont le paltok en anglais, ils cliquent sur ce lien. Ensuite, il y a des drapeaux. Tu cherches le drapeau français. Tu cliques sur le drapeau français. Ensuite, quoi? Ensuite, bien sûr, après avoir fermé le paltok, ensuite, tu trouves, inshallah ta'ala, que il est devenu en français. Quand il est devenu en français, on va, alhamdoulilah, c'est très facile. Maintenant, ceux qui ont déjà le pal en français, donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où c'est écrit, yani, la page principale, fichier, ensuite configurer préférence. Fichier, configurer préférence. Je crois que pour les autres, c'est file, ensuite c'est setup. Là, configurer préférence, ensuite général, ensuite bannière, pas général. Là, la faune, général, une seconde, général. Taïeb, une seconde, bannière. Voilà. Après général, en bas, c'est écrit bannière. Bannière, il y a deux cases, il faut les décocher. Montrer bannière, il faut décocher et décocher. Montrer paltok aujourd'hui lorsque je me connecte. Surtout celle-là. Il faut la décocher. Comme ça, quand tu rentres sur paltok, il s'ouvre. Il n'y a pas cette fenêtre qui s'ouvre. Bi'illahi ta'ala. Naam. Tfadal, inshallah ta'ala, pour une autre question.
Le cher, il me semble que vous n'avez pas répondu à la question sur la sorcellerie. Rappelez-moi si c'est le cas ou pas. Donc, là, on fait comme...
Naam, inchallah, relire, tfadal.
Le cher, votre PV s'est refermé, donc je vous la lis uniquement. Donc, c'était la question d'une sœur qui posait la question d'un frère. Et le frère demande, ma mère est mécréante, elle me fait de la sorcellerie et j'ai failli mourir. Je n'habite pas avec elle et je voudrais savoir quel comportement adopter avec elle. Jazakumullahu khair, Achir.
Ta mère, que Allah subhanahu wa ta'ala la guide, reste toujours ta mère. Seulement, il faut voir comment éviter pour que, yani, elle ne te refasse plus ces choses-là, c'est-à-dire si elle t'a fait quelque chose dans le manger, donc éviter de manger dorénavant chez elle. Naam. Et si c'est possible, naam, si c'est possible, yani, d'esquiver, yani, d'être chez elle quand il y a des fêtes, etc., pour ne pas manger. Sans être obligé de lui montrer. Sans être obligé de lui montrer. Maintenant, si quelqu'un veut lui montrer, ce serait mieux. Mais où est la preuve que c'est vraiment? Elle va dire d'où tu sais que c'est moi, tu n'as pas honte, tu accuses ta mère, etc. Et il rentre dans les problèmes. Non. Donc l'essentiel, c'est de l'éviter et de ne pas donner l'occasion de l'ensorceler. Et de faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala yani, t'aide et te guérisse. Fadlan. Mais il faut pas rompre les liens avec elle pour de bon. C'est toujours ta mère.
Fait comme cher, et je rappelle juste que je pose une question concernant le cours et une question d'ordre général. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes dans un certain ordre et que vous ne voyez pas votre question. Question suivante, cher. Donc question d'une sœur qui demande, Lorsqu'après avoir effectué une œuvre, une bonne œuvre, on a des doutes sur sa sincérité qui apparaissent, alors qu'à la base on était sûr de l'avoir faite avec sincérité. Cela provient-il du SOS ou est-ce que cela signifie que l'œuvre n'est pas acceptée d'Allah? En même temps, Cher, est-ce que le fait de délaisser une bonne action lorsque l'on se trouve devant des gens par peur de l'ostentation, est-ce que cela est correct? Barakallahu fikoum, Cher.
Quand on sent dans son cœur que yani on a fait une bonne œuvre avec sincérité, ensuite, après avoir terminé cette bonne œuvre, il y a des doutes qui apparaissent comme quoi on l'a pas faite avec sincérité. Est-ce des ouest-ouest ou bien c'est une preuve qu'elle n'a pas été acceptée? Réponse, c'est des ouest-ouest. C'est des ouest-ouest. Il n'y a rien comme ça dans la religion qui lorsque tu fais une chose, il y en a qui montrent qu'elle n'a pas été acceptée comme ça. Non, ça, ce sont des ouest-ouest. Et les savants ont mis une règle, on dit, à chaque fois que tu termines une adoration et que les ouest-ouest viennent, il faut plus donner d'importance à ces ouest-ouest. Comme ça disent les savants. Je suis en train de prier, dans la salade, j'ai des ouest-ouest. Est-ce que ceci, est-ce cela, est-ce que c'est ostentation-là? Je fais des efforts, inchallah, pour pousser, pour repousser, et je termine ma salat. Mais si maintenant ma salat est terminée, et j'ai dit où est-ce que c'était pas pour Allah, il faut pas donner d'importance à cela. C'est comme lorsque je suis dans la salat et je me dis, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, j'ai prié deux, est-ce que trois, est-ce que j'ai fait deux prosternations ou bien une, je dois corriger au maximum. Mais si maintenant j'ai terminé la salat, j'ai dit salam alaikum à gauche et à droite, et ensuite je commence à dire, les savants ont dit plus donner d'importance au souhait. Place la salat, inshallah ta'ala, était convenable. Et lorsque on délaisse des choses devant les gens, à cause qu'on a peur de l'ostentation, je dis, si je suis dans l'adoration, et que les ouest-ouest sont venus à cause des gens, je dis maintenant, je suis en train de prier à cause des gens, etc. Qu'est-ce que je fais? Je dois repousser ces choses qui sont venues dans mon cœur. Je les repousse, je fais le maximum pour les repousser et je termine mon adoration. Inch'Allah, elle sera acceptée. Mais si maintenant je suis dans l'adoration et je commence à me dire c'est pour les gens, c'est pas pour les gens, et les gens sont en train de me voir et je ne repousse pas. Ça me plaît. Et je dis ça me plaît qu'ils sont en train de me voir, donc je continue, je rallonge, etc. Ça annule. Ça annule mon adoration. Pourquoi? Parce que j'ai pas repoussé. Non. Mais si maintenant j'ai pas commencé du tout une chose et que j'ai peur des gens, je dis que c'est à cause d'eux, etc. Et je veux éviter, j'évite. Sauf si c'est quelque chose d'obligatoire. Si c'est une prière obligatoire, là, je dois la faire. Même s'il y a des gens qui voient. Non. Tfadal.
Barakir, question suivante d'une sœur qui demande: pouvez-vous me dire jusqu'à quelle heure puis-je faire salat al-Doha? Son temps va-t-il jusqu'au dhuhr? Sinon, jusqu'à quel moment précisément peut-on la faire? Une heure ou une heure un quart avant le dhuhr, par exemple? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous comble de ses bienfaits et vous préserve de tout mal. Donc, je pense, cher, que la sœur aimerait que vous nous donniez une indication au niveau de l'heure, pas au niveau du hadith. Plus concrètement, en fait.
Comme salam, chauffe. Ibn Rahimahullah. Et on va prendre comme exemple que le lever du soleil, c'est un exemple, c'est tout. Le lever du soleil, c'est à 6 heures du matin. 6 heures. Et le dhuhr, c'est à 13 heures. C'est un exemple. J'entends dhuhr, ce n'est pas lorsque le adhan, il appelle à la salat, non. Car des fois, le adhan, c'est à, par exemple, c'est à 3h20. Afoun, 13h20 en Algérie. 13h20, c'est salat Allah. Il appelle. Alors que le soleil quitte le zénith à combien? À 12h45. Donc, le vrai moment du dhuhr, c'est à 12h45. C'est quand le soleil quitte le zénith, le milieu du ciel. Mais quand est-ce qu'il le quitte? Je dis des fois 12h45, des fois 12h40, des fois 5h30, mais jamais 13h20. Mais en Algérie, toujours, ils sont d'accord, le ministère des Affaires étrangères, pour ne n'appeler à la Salat qu'à 12h, qu'à 13h20. Donc, prenons notre exemple. Le lever du soleil, 6h du matin. Ensuite, je vois, c'est quand, yani, le soleil quitte le zénith. C'est quand? C'est écrit comme ça sur les calendriers, pour savoir que c'est le moment du dhohr. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, rahmahoullah, on attend entre un quart d'heure et 20 minutes après que le soleil se soit levé pour commencer à faire salat al-dhoha. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique de Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, qui dit que, au temps du professeur, on faisait une salat qui s'appelle salat tashriq. Salat tashriq, c'est le début de salat. Le soleil levé un quart d'heure ou 20 minutes après le soleil se soit levé. Et ensuite, tout ça, c'est la salat al-duha, ça se termine pas jusqu'à, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit jusqu'à à peu près 10 minutes avant que le soleil quitte le zénith. 10 minutes avant, yani salat al-duha. Voilà, inchallah ta'ala, la réponse. On attend que le soleil se lève, on attend à peu près 20 minutes qu'il se soit bien levé, et on a pour faire dhoha jusqu'à 10 minutes avant que ne rentre le moment de salat al-dhohr. Tfadal.
Barakallah. Question suivante d'une sœur concernant le cours qui demande: j'aimerais votre conseil pour les sœurs qui sont inscrites sur les forums. Parfois, les sœurs entre elles se font des éloges. Donc, comment se comporter face à cela? Faut-il éviter à cause de cela les forums pour sœurs? Wafakakum Allah, Cheikhana, qu'Allah vous préserve. Barakallah.
Si ce que vous vivez dans les forums, ou ce que vous entendez, ou ce que vous écrivez, c'est seulement entre sœurs, et qu'il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup d'intérêt, il ne faut pas quitter un forum à cause de faute de faire des échanges. Mais on leur montre seulement que, yani, il ne faut pas faire comme ça des loges, et on leur corrige, c'est tout. Si c'est comme j'ai dit, si ce forum contient beaucoup de bienfaits, non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On enlève seulement la faute qu'il y a. La faute ici, c'est les éloges. Et de dire, Barakallahu fik, yani, et pas la peine de faire des éloges ou comme ça, ou le prophète, voilà ce qu'il a dit dans le hadith, ou. Non, c'est tout. Et on quitte pas tout le forum à cause de que quelques sœurs font cette faute. Wallahu a'lam, tfadla.
Sur la question d'avant. Donc la sœur aimait savoir, est-ce que Salat d'Or, c'est au moment de l'appel à la prière, ou doit-on voir par rapport au soleil? Car elle n'a pas compris. Barakallahu fikoum, cheikh.
On ne regarde pas par rapport au soleil parce que on n'est jamais sûr que on a bien vu. Non, peut-être que moi j'ai pensé avait quitté Zénith alors qu'il n'a pas quitté. Je dis, si on a le calendrier, si on a un calendrier qui nous annonce, yani, que voilà par exemple le soleil quitte le Zénith telle heure par exemple. Donc, à partir du moment, ce moment-là, je suis sûr que c'est Salat al-Dhuhr. Naam. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai pas yani, ce calendrier qui me dit comme ça, alors qu'est-ce que je fais pour être sûr? J'attends que Salat al-Dhuhr, c'est quand j'entends l'adhan. Maintenant, quand j'entends l'adhan, on est tous sûrs que c'est le moment de Salat al-Dhuhr. Mais ce que je voulais dire, que ce n'est pas obligé que quand j'ai entendu l'adhan, que ça veut dire que c'est le moment du dhuhr et que ce n'était pas avant. Car je ne sais pas maintenant, ceux qui ont appelé à l'adhan, est-ce qu'ils se sont basés sur un calendrier ou bien ils ont vu, yani, que le soleil a quitté le zénith. C'est pour ça que c'est très rare que tu trouves que, yani, les gens appellent à Salat al-Dhuhr après que le soleil quitte le zénith. Mais c'est comme en Algérie, ils attendent toujours 20 minutes ou une demi-heure là pour appeler. Astaghfirullah.
Je vais vous poser deux questions qui sont plus ou moins sur le même sujet, même si elles sont un peu différentes. La première question est un frère qui pose la question d'un imam en France qui vous demande: peut-on prier l'Aïcha en France 1h10 maximum après le Maghreb, sachant que le calendrier indique environ 1h15, vu que les gens sont fatigués? Car en France, cher, en été, les horaires sont très larges. C'est-à-dire que des fois, ça, l'Aïcha, je crois, arrive vers minuit, vers ces heures-là. Et en même temps, une sœur chère demande: j'aimerais vous demander un conseil concernant l'éducation des enfants et leurs pratiques religieuses ici en France. Ici en France, ça, l'Aïcha est à 22h35. S'ils attendent jusqu'à cette heure-ci, ils s'endorment après le Maghreb. Ils s'endorment. Désolé, comme il n'y a pas de point, je ne sais pas où m'arrêter. Après le Maghreb, il m'est impossible de les réveiller pour Salat l'Aïcha. Donc ils réunissent leur prière en avance à l'heure du Maghreb. Mais je sais qu'il ne faut pas le faire, sauf exceptionnellement. Donc pouvez-vous nous conseiller à ce sujet, cher? Donc comment doivent faire les gens en France, cher, pour Salat le Maghreb et l'Aïcha, que ce soit les enfants ou les grands? Barakallahu fikoum, cher.
J'ai pas compris pour la première question. Peut-on prier l'Aïcha en France 1h10 au maximum après Salat al-Maghrib? Le calendrier indique 1h15. C'est-à-dire il parle de la différence des 5 minutes. Tfadlan.
En fait, c'est lié par rapport à la parole. Donc, juste 1h10 après le Maghreb, ou est-ce qu'il faut attendre obligatoirement l'heure qui est indiquée sur le calendrier?
Compris. Jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Vous savez, dans les calendriers, plusieurs fois, yani, c'est pas vraiment ce qu'il y a en réalité. C'est pour ça que si vous allez voir seulement par exemple en Algérie, seulement en Algérie, quand il appelle à Salat Subh, par exemple, il fait l'adhan de Salat Subh du matin, alors qu'en vérité, il faut attendre presque 20 minutes pour que ça soit vraiment Salat Subh. Non. Alors pendant le Ramadan, c'est pas la peine de vous dire qu'il y a certaines villes, c'est-à-dire certaines mosquées, je pense qu'il n'y a pas ça chez vous, Allah alam, qui ajoutent. Qu'est-ce qu'ils ajoutent? Ils ajoutent quelque chose qu'ils appellent imsak. Imsak. Voilà, comme ça, imsak. Même dans le calendrier, tu trouves. C'est écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à ce moment-là, quand c'est imsak, et il cite par exemple 6h30, 6h20, 4h30, 33 et comme ça. Quand c'est imsak, ça veut dire qu'il faut commencer à jeûner. Alors que cet imsak, après cet imsak, 20 minutes ou une demi-heure, pour que vienne quoi? Vienne l'adhan de Salat Subh, le vrai Salat al-Fajr, où on doit jeûner. Alors que cet imsak, comme disent les ulama, c'est vraiment bid'a de faire arrêter les gens et de leur ordonner de jeûner à peu près 20 minutes ou 25 minutes avant yani le vrai adhan de Salat Subh. Quand tu leur dis pourquoi, ils te disent par précaution. Par précaution, comme ça je suis sûr que yani, j'ai jeûné mon jour. On leur dit, tu fais ça par précaution, tu sais pas que tu as fait deux choses. La première, tu as légiféré une chose, sur la bid'a qui existe à l'islam. Et deuxièmement, à cause de tes précautions et ta prudence, tu as quoi? Tu as ce qu'on appelle en arabe hajjart. Yani, tu as limité quelque chose que Allah Ta'ala a laissé comme ça large aux gens, large. Yani, naam, ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan du Salat Subh. Et toi maintenant, tu m'as rétréci quelque chose qui était large et vaste que Allah Ta'ala m'a donné, tu me l'as rétréci. El-Mouhim. Voilà, je voulais dire que, tout ça pour dire que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salat l'Aïcha, comment on sait que c'est l'heure Salat l'Aïcha? Regardez, quand c'est Salat al-Maghrib, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil va se coucher. Là, le soleil est descendu, yani, pas il est derrière un immeuble, non, ou derrière une montagne. Non, il a quitté l'eau. Zéro, latitude zéro, il est descendu. Yani, si on va au bord de la mer, on voit le soleil qui est descendu. Là, on ne le voit plus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil, après le qu'il soit couché, on va voir le ciel, il commence à quoi? À rougir. Naam. À jaunir, vraiment à jaunir. Ensuite à rougir. Et ensuite on voit que ça commence à noircir. On voit un peu de noir sur le ciel. Et ça commence à noircir, noircir, noircir. Quand c'est devenu tout noir. Il n'y a aucune rougeur dans le ciel. Juste un peu auparavant, il y avait de la rougeur et un peu noir. Non, maintenant, il n'y a plus de quelque chose de rouge. Tout est noir. Noir corbeau. Ça veut dire que c'est Salat l'Aïcha. Ça veut dire que c'est Salat l'Aïcha. Et ça, bien sûr, ça diffère, bien sûr, d'un pays à l'autre, d'une contrée à l'autre. Sans problème, ça, on ne peut pas le voir dans une ville. Dans une ville, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de projecteurs, on ne peut pas voir ça. Il faut être yani, à la campagne, au bord de la mer, pour voir que le ciel est devenu tout noir. Dès que le ciel est devenu tout noir, je peux prier Salat l'Aïcha. Donc, je dis au frère qui a posé la question, il a dit 1h10 ou 1h15, 5 minutes, est-ce que 5 minutes avant, est-ce que le ciel est tout noir? Non, si tu es à la campagne, au bord de la mer, tu vois que le ciel est tout noir, c'est pas la peine d'attendre 1h15 ou 1h30. Là, c'est le moment Salat l'Aïcha. Tfadal.
En fait, je sais pas le temps minimum, surtout est-ce que vous pouvez donner une indication numéraire. Et aussi, il y avait la question de la sœur par rapport à l'éducation des enfants. Donc, quand l'Aïcha est à une heure tardive, comment il doit faire avec des enfants? Donc, cher, si vous pouvez parler des enfants qui sont pubères et ceux qui ne sont pas pubères, comme ça fera une opinion générale. Baklof et comme cher.
J'allais parler de ça. Avant cela, tu m'as dit que le frère voulait un minimum. Non, un minimum, Cheikh Ben Outaymi, dans un de ses livres, a dit minimum, minimum. Yani, dans certaines villes ou certains pays, c'est 45 minutes. Il a dit minimum, c'est 45 minutes. Et il a dit ça monte jusqu'à 1h10, 1h15. Non, je l'ai inscrit ça. Je l'ai inscrit. Il a dit minimum 45 et ça monte jusqu'à 1h10 à peu près. Non, ça dépend, comme j'ai dit, des pays et des villes. Et pour les enfants, bien sûr, s'ils sont pubères, classe, quelqu'un qui est pubère, c'est quelqu'un qui, yani, toutes les fautes qu'il fait sont inscrites contre lui. Pubère, toutes les récompenses, s'il n'est pas pubère, toutes les récompenses et les bonnes œuvres qu'il fait s'inscrivent. Mais toutes les fautes qu'il fait ne s'inscrivent pas. Alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. C'est pour cela que, quand il n'est pas encore pubère, s'il groupe comme ça, etc., à cause des qu'il se réveille pas, il a fatigue, etc., etc., c'est pas très grave. C'est pas très grave. Juste qu'il faut pas qu'il prenne l'habitude. Faut pas qu'il prenne l'habitude, sinon il va devenir pubère en ayant ses mauvaises habitudes de grouper tout le temps. Et ça, il pourra plus quitter ses habitudes. Mais tant qu'il n'est pas pubère, malgré ce qu'il fait, Inch'Allah Ta'ala, il n'en sera pas questionné car ce n'est pas une faute pour lui. Tfadl.
Fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit, par rapport au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Comment expliquer ceci avec le cours de ce soir? J'ai souvent peur que mes œuvres ne soient pas acceptées, mais je ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et j'ai toujours pensé qu'Allah m'a sauvé de l'enfer en me guidant. Et je le remercie pour cela. Est-ce cela l'hypocrisie dont vous parliez dans le cours, cher? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khaira pour vos cours bénéfiques. Qu'Allah nous accorde le firdaus et qu'il agrée nos œuvres à tous. Amin ya Rabb.
Est-ce cela l'hypocrisie dont vous avez cours? De quelle hypocrisie elle parle? De la bonne hypocrisie ou de la mauvaise? La bonne hypocrisie, c'est le fait de le sentir tout le temps comme ça. Comme a dit l'autre, il a dit, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui ne se couche pas en se disant je suis hypocrite. Si c'est comme ça, c'est bien. Mais si elle parle de l'autre hypocrisie, bien sûr, c'est pas de celle-là que nous en parlons. El Mouhem. Elle a dit comment yani regrouper entre le hadith qui dit qu'il faut pas mourir sans penser du bien en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on a dit tout à l'heure que les salaf, yani tout le temps, ils disaient que Allah n'a pas accepté, est-ce que je vais rentrer en. Est-ce que Allah ta'ala va me faire rentrer en enfer ou au paradis, etc. Comment qu'on groupe? On groupe que Al-Muhim, avant de mourir, l'âme, surtout, quand c'est le moment de rendre l'âme, on ne doit penser en Allah subhanahu wa ta'ala que le bien. Que le bien. Naam. Maintenant, quand le temps devant toi, etc., pour pouvoir faire les efforts, penser que yani, tu fais beaucoup de mal, tu fais beaucoup de péchés, que peut-être tu es hypocrite, peut-être ceci. Ceci pour te corriger. Pour te corriger. Car si tu vas avoir l'autosatisfaction et la fatuité tout le temps, donc c'est grave. Tu vas rien faire, tu vas dire je suis mashallah, tout est accepté, je suis pieux, je suis cela, je suis ça. Non. Donc c'est bien de penser le mal, etc. Mais quand la personne y en est, sent que c'est le moment de rendre son âme, et que là c'est la réalité, elle est en train de yani, d'attendre le moment, là on ne doit penser d'Allah subhanahu wa ta'ala que le bien. Personne ne doit mourir en pensant du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il doit dire que Allah ta'ala va me pardonner, Allah ta'ala est Ghafour Rahim, Allah ta'ala est Karim, généreux et comme ça. Naam. Tfadlal.
Donc en attendant la rouge, je vous lis la noire, Cheikh. Là, une sœur demande qu'Allah vous récompense, Ya Aba Abdillah, pour ses cours bénéfiques et qu'il vous comble vos souhaits dans le monde, dans les mondes, et vous donne une progéniture pieuse. Qu'Allah récompense ses admins ainsi que tous les frères et sœurs présents dans le salon et nous donne le firdaus. Amin. Qu'Allah fikoum wa iyyak. Voilà maintenant 4 ans que j'ai demandé al-khula à mon époux. Suite à de mauvais traitements répétés et beaucoup d'autres choses très mauvaises que je ne citerai pas, et pour lesquelles j'ai patienté 1 an et demi en le conseillant. Mais la situation ne faisait que s'aggraver. Il refuse de me le donner et il m'a dit, tu vas rester ni marié, ni divorcé. Depuis ce temps, je ne suis ni marié, ni divorcé. Mais alhamdoulillah, ma situation s'est améliorée de tout point de vue. Et il essaye de me nuire par tous les moyens. Je précise que depuis novembre 2009, nous vivons séparément. C'est un peu mélangé, cher. J'ai entamé une procédure de divorce auprès des tribunaux français. Inch'Allah, la fin approche, Allahu alam. J'aimerais savoir si je dois observer une période de viduité. Si oui, est-ce que c'est celle du khula ou celle de la répudiation? Je précise que depuis novembre 2009, nous vivons séparément. Et quand il se présente pour prendre nos enfants, je suis avec un mahram. Invoquez Allah pour qu'il me délivre de cet homme et me donne un époux et des enfants vertueux. Jazakallahu khaira. Wa hayakum Allah. Salatu wassalam ala rasulillah. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Ou plutôt elle, quand elle lui a dit tu restes comme ça, tu ne suis marié ni divorcé, ça c'est haram ce qu'il fait, c'est haram ce qu'il fait. Non. Et le verset est connu qu'il ne doit pas faire comme ça. Et le en islam, non, quand la femme ne peut plus vivre avec son mari et craint par-dessus le marché de ne pas lui donner ses droits. Naam. Et dans ce cas, elle va se remplir de péché. Il lui a permis, bien sûr, de demander le khula. Et le prophète a dit à l'homme duquel son épouse a demandé le khula, il lui a dit accepte. C'est pour ça que les savants ont dit que quand le moment du khula est venu, l'homme doit accepter. Et comme a dit Cheikh Ibn Outaymin, même le juge doit quoi? Doit le forcer à ce qu'il accepte. C'est-à-dire que même si l'homme, le juge lui dit si, classe, tu prends la dot et c'est terminé entre vous. Après avoir bien sûr des preuves que yani, ça ne peut plus marcher entre eux et qu'ils ne peuvent plus continuer. C'est pour ça que j'ai dit quand l'homme ici a dit que je vais te laisser comme ça, non, il fait une faute grave. Il fait une faute grave Et bien sûr, il dit comme ça parce qu'il n'y a pas l'islam. S'il y avait le juge islam, le juge musulman, il les aurait divorcés. Elle dit ici, ma femme approche à l'autre. J'aimerais savoir si j'ai observé une période de viduité. Si oui, celle du khula, 1 mois, ou celle de la répudiation. Répudiation, 3 mois. Taïb. Si c'est. Je ne sais pas si tu lui as rendu sa dot ou pas. Je ne sais pas si tu lui as rendu sa dot ou pas. Parce que c'est pas cité. Ensuite, elle vient, si c'est 3 mois de répudiation, je dis, il n'y a pas 3 mois, c'est 3 fois le cycle. Cycle, ce n'est pas en comptant les jours comme ça pendant 3 mois, mais en voyant le sang, qu'il n'y a plus le troisième, dans le troisième cycle, qu'il n'y a plus le sang, après avoir pris la douche, la femme, yani, devient, quoi, devient divorcée officiellement, bi-idhnillahi ta'ala. نعم تفضل.
Comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Hayakum Allah li ta'atihi ya cher, qu'Allah vous préserve. La foi augmente et diminue selon les œuvres. Et le fait de ressentir sa foi qui augmente et de s'en réjouir rentre-t-il dans l'autosatisfaction? Car ce sont par la cause de nos actes qu'arrive ce sentiment. Jazakum Allah khair al-jaza. Et qu'Allah nous accorde la science utile, des œuvres acceptées, une substance licite, et qu'il nous accorde son Firdaus.
Poser la question juste avant cela, je lui dis si tu veux sortir des divergences, puisque maintenant avec le tribunal, je sais pas s'il va compter khul'u ou autre chose, il vaut mieux attendre 3 fois les monstres bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Je dis à la personne qui a posé la dernière question que quand elle dit la foi augmente et diminue selon les œuvres, et le fait de ressentir sa foi qui augmente et s'en réjouir, rentre-t-il dans l'autosatisfaction? Je dis, ça ne rentre pas dans l'autosatisfaction. C'est une récompense que Allah subhanahu wa ta'ala te donne quand tu fais beaucoup de bonnes œuvres, ou de certaines bonnes œuvres avec sincérité. Allah ta'ala t'ouvre ta poitrine, tu sens ta poitrine, mashallah, qui s'est quoi, qui s'est ouverte, naam. Et tu sens comme yani, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendue. Tout cela, c'est comme récompense pour la bonne œuvre bi'idhnillahi ta'ala, et pour que la personne soit sûre que ce n'est pas de l'autosatisfaction, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit remercier Allah, et dire à Allah subhanahu wa ta'ala, hada min fadlik. Ça, c'est de ta grâce. Ça vient pas de moi. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ton fadl, de ta grâce, bi-idhnillah. Naam. Comme ça, elle enlève tous les waswas, bi-idhnillah ta'ala. Tfadl.
Comme cher. Vous pouvez me rappeler cher, parce que j'ai un petit trou là, si vous avez répondu à la question sur l'autosatisfaction. Barakallahu fikoum.
Je viens juste de répondre. Et je lui ai dit que ça vient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit dire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça vient pas de moi pour chasser, yani, l'autosatisfaction. Et je peux même lui citer le verset, bi'idhnillahi ta'ala, une seconde, un verset ici, une seconde. Non, regardez ce verset. قال الذي عنده علم من كتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال سليمان دي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Regardez ce qu'il a dit. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre porterait, en parlant à Suleyman, avant que tu n'aies cligné de l'œil. Suleyman a vu le trône installé auprès de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis un. Et quiconque est reconnaissant, hein, etc. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceci est de la grâce de mon Seigneur. Ça ne vient pas de moi. C'est pour ça que toute personne qui ressent quelque chose comme ça dans son cœur, qu'elle dise, ça ne vient pas de moi. Ceci, ça vient de la grâce de mon Seigneur. Non, pour qu'elle ne ressente pas de l'autosatisfaction qu'elles disent pas ça vient de moi. Tfadal.
Fois, cher Sidney, ça c'est parce que j'étais un peu débordé en privé, donc j'avais pas entendu la réponse. Question suivante d'une sœur qui dit, qui pose la question d'un frère d'ailleurs. Cher, j'envisage de faire chauffeur de taxi au Maroc. Y a-t-il des règles pour ce métier, comme le fait que ce soit touché par la mixité? Suis-je tenu responsable des lieux où les gens vont? Barakallahu fikoum. Donc, si vous pouvez rappeler, cher, quelques règles concernant les chauffeurs de taxi, qu'Allah vous préserve ainsi que tous les croyants.
En fait, celui qui va faire chauffeur de taxi sera sûrement éprouvé. Sera sûrement éprouvé car c'est difficile, faut dire la vérité. J'ai dit avec quelqu'un que je connais qui est en France, qui ne donne plus maintenant de ses nouvelles, inchallah, lui est rien arrivé. Le mohim, il est chauffeur taxi. Il m'a dit en France. Je lui dis comment quand quelqu'un te dit par exemple emmène-moi à la discothèque. Ou bien vers tel endroit où comment tu vas faire? Ne pas le prendre. Il m'a dit justement le problème, c'est qu'il peut déposer plainte contre toi. Naam. Il peut déposer plainte contre toi et dire que celui-là, il n'a pas voulu m'emmener à tel endroit où je ne sais pas. Donc je dis, c'est vraiment difficile. La personne qui monte, naam, avec une femme. Et toi, tu sais que ce n'est pas sa femme. Quand quelqu'un est avec sa femme, vous avez remarqué, il se parle pas beaucoup, il rit pas beaucoup. C'est pas sa femme, ça se voit. Hein, il rit beaucoup, elle rit, lui il rit, on tape ce qu'il l'enlace, ceci, cela. Ça se voit que c'est pas sa femme. Celui qui te dit emmène-moi à tel endroit. Donc toi, tu vas les prendre à tel endroit pour faire le haram. Déjà, le fait qu'il soit monté avec toi, c'est interdit. Ensuite, quand une personne monte dans ta voiture, elle commence à fumer. C'est interdit, il faut éteindre la cigarette. Naam. Et ceci et cela, je pense que. Ensuite, des fois, une femme va monter seule. Seule avec toi. Comment tu vas lui dire? Ne montez pas, il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, celle-là, peut-être qu'elle va appeler le policier, elle va t'enlever le permis de conduire. Naam. Et maintenant, si tu la laisses monter toute seule, c'est un problème pour toi. C'est une fitna. Naam. Je dis à cette personne, fais bien salat istikhara et crains Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et regarde comment yani, je demande à Allah ta'ala qu'il te fasse une solution. Tfadal.
Question suivante. Hayakumullah ya Sheikh, pour votre patience et votre diffusion de la science envers notre Ummah. Les éloges faits à nos enfants pour les encourager les rend-ils orgueilleux? Et les éloges dans le couple sont-elles à encourager ou non? Barakallahu fikoum, Sheikh.
Envers les enfants ou bien dans le couple, si vous avez remarqué, toutes ces éloges-là, ce ne sont pas dans le côté religieux. Non. C'est dans le côté religieux que ça peut amener à la perte de la personne. Non. Mais si on lui fait des éloges à l'élève ou à l'enfant, pour que yani, il donne aussi maximum, qu'il travaille mieux, pour que il apprenne plus. Et tout ça, ce n'est pas interdit. Naam. Car ça va pas le, ça n'a pas un rapport avec le dîn, avec son dîn. Même chose entre le couple. Quand c'est entre le couple, il y en a pour fortifier le couple, pour ceci, pour cela. Il y en a la religion dit, par exemple, je ne vais pas dire à mon épouse que, mashallah, il n'y a pas quelqu'un qui jeûne comme toi et tu seras parmi les élus yawm al-qiyamah. Naam. Ce n'est pas une question de. Din. Sinon, inshallah ta'ala, yani, si on sait que c'est pour fortifier le couple et on sait que c'est sécurisé, comme on a vu tout à l'heure dans le hadith, je connais bien ma femme et je sais que ça va pas lui faire du tort, ou bien aussi elle me connaît et me dit des choses qui ça va pas me faire du tort, inshallah ta'ala, que ce n'est pas yani, haram, wallah subhanahu wa ta'ala. Peux-tu poser, inshallah ta'ala, ta dernière question?
Justement, cher, j'allais vous dire une dernière question concernant le cours, afin que le cours soit bien assimilé. C'est une sœur qui dit, tout à l'heure, il y avait une question sur le fait d'aimer les compliments qu'on nous donne lorsque l'on récite bien le Coran. Et cher, vous avez répondu qu'il n'y avait pas de mal en mentionnant l'exemple de Omar et de son fils dans le hadith de l'arbre qui ressemble aux musulmans. Seulement, ce que j'ai compris de cette réponse, c'est que si le compliment est sur la connaissance de la religion, on peut l'accepter. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que j'ai bien compris? Parce que j'ai l'impression que ça contredit la parole dans le cours d'El Hassan qui a dit, combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse? Donc elle a un peu d'ambiguïté, cher, si vous pouvez l'éclairer. Barakallahu fikoum.
En fait, pour pouvoir l'éclairer, il faudrait que moi-même je comprenne la question. Est-ce que Allah Ta'ala, tu peux m'expliquer car je ne l'ai pas comprise? Tfadlal.
Même cher, en fait, donc la sœur dit que ce qu'elle a compris lorsque vous avez cité l'exemple de Omar et du fils, et de son fils Abdullah ibn Omar, c'est que le compliment est bon lorsque cela est sur la connaissance de la religion. Dans ce cas-là, on peut l'accepter. Mais quand ça n'est pas sur l'ilm de la religion, donc ça ne serait pas accepté. Donc je pense que c'est ce qu'elle a compris. Et elle dit que ça semble contredire la parole d'El Hassan qui dit combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. C'est-à-dire même par rapport à la religion ou autre, il faudrait éviter les éloges selon la parole d'El Hassan. Je ne sais pas si j'ai été clair, cher.
On va prendre, on dit à cette sœur, si on va prendre ce qu'a dit le Hassan, rahimahullah, c'est que toutes les éloges ne sont pas bien, ça. Toutes les éloges ne sont pas bien, car les gens sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Si maintenant on va prendre ce qu'ont dit les savants, se basant sur certains hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était donc permis de faire des éloges quand la personne, on sait d'elle qu'elle est sécurisée. En ce cas, on va dire qu'il n'y a plus de contradiction. Il est interdit de faire des éloges en général et c'est permis d'en faire en particulier si je sais que la personne, yani, je vais, yani, elle va rester sécurisée, je ne vais pas l'ébranler une fois. Et je ne vais pas lui faire entrer l'autosatisfaction. Non. Citons le hadith de Ni'ma Rajul, Omar, Othman, ceci, cela. Il y a d'autres hadiths et athars que je n'ai pas là devant moi. Si vous voulez, inchallah ta'ala, dans le prochain cours, je vous les donne. Donc, conclusion, on ne fait pas d'éloge, n'am, en général. Mais on en fait, et c'est permis si je sais que la personne, yani, je la connais bien et je l'ai déjà testée, et que, inchallah, elle ne s'ébranle pas quand je lui fais des éloges. N'am. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Inchallah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, que bientôt on va commencer quelques cours sur le Ramadan, car il reste pas beaucoup de temps pour le Ramadan.
Afouane cher, je vous ai demandé le mic parce que il y avait juste la question d'une personne récemment convertie qui demande si une personne, lorsqu'elle se convertit et qu'elle est d'un certain âge, doit quand même se circoncire ou pas. Barakallahu fikoum cher.
Donc je dis, les savants ont dit, qui s'est rejeté, c'est qu'il y a des moyens, yani, comment se faire la circoncision sans yani, provoquer d'autres problèmes. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, l'anesthésie, à ceci, cela, et que le médecin dit que c'est blessé, ça ne peut pas donner de mauvaises conséquences. Il a dit dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, on doit faire la circoncision. Et s'il n'y a pas les liens, et on ne connaît pas un médecin capable de nous faire une bonne circoncision sans donner de mauvaises conséquences, ou il n'y a pas dans notre ville, ou il n'y a pas dans notre pays, ou bien j'ai pas les moyens financiers comme ça, même ça ne devient plus obligatoire pour la personne. Donc c'est ça, comme ça ont répondu les savants. S'il y a rien, il faut insister, Inch'Allah Ta'ala, pour la faire. C'est important. Mais s'il n'y a pas, ou on a peur de mauvaises conséquences, la personne, Inch'Allah Ta'ala, est excusée. Wallahu Azza wa Jal wa A'lam. Inch'Allah Ta'ala, tfadl.
Cher, si vous voulez conclure, mais juste me laisser le mic pour expliquer aux gens comment poser les questions, Inch'Allah, et aussi une petite mise au point, Barak. Donc, ça, vous pouvez y aller, Inch'Allah. Je vous laisse quand même conclure.
Maali, je te laisse conclure, Inch'Allah Ta'ala. N'oublie pas, Inch'Allah, termine le salon. N'oublie pas de fermer le salon. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer samedi. Peut-être que, Wallahu Ta'ala Alam, on va commencer des choses sur le Ramadan. Ta'ala Alam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykum.
Barak Allah fikoum, Cheikh. Alaykoum salam wa barakatou. Donc, si je prends le micro, c'était juste pour expliquer une chose. Donc, certains n'ont pas compris pourquoi on dit qu'on ne prend pas des questions sur le divorce et que j'ai quand même posé une question sur le divorce. C'était juste pour dire que si vous avez bien entendu la question, ce n'est pas un problème de couple qu'elle évoquait ici, mais c'était juste pour savoir si elle devait attendre une période de 1 mois ou 3 mois. Donc, c'était vraiment une question qui avait un rapport avec Dean. Contrairement aux questions qui viennent d'habitude, où les personnes disent mon mari a un mauvais comportement et moi je suis mashallah, ou le contraire, ou là, Yachir ne peut rien faire. Et aujourd'hui, non, c'était vraiment un cas qui a nécessité un éclaircissement au niveau du dîn. Donc c'était juste pour expliquer ceci. Et sinon, beaucoup de personnes aussi se demandent comment poser les questions. Donc le samedi, il faut être inscrit sur le site. Pour poser une question générale, www.chalabi.com. Il faut être inscrit sur ce site le samedi et dès la fin du cours, un admin ouvre une rubrique questions. Pour le moment, elle n'est pas visible. Elle n'est visible qu'à ce moment-là, que le samedi après le cours. Quand l'admin en fait, vous fait part de cela, et à ce moment-là, vous pourrez poser votre question en vous rendant sur le site, Inch'Allah. Et le mercredi, par contre, c'est une autre méthode. Il faut lever la main. Comme vous pouvez voir, certains frères et certaines sœurs ont levé la main. Et donc, après, on lit les questions par ordre, des mains levées. Donc, je ne favorise personne, je ne passe aucune personne avant une autre. Allahu alam. Enfin, là, je m'efforce à cela. Et donc, dès que vous entrez dans le salon, il faut lever la main. Malheureusement, il y a tellement de questions et tellement de personnes qui lèvent la main qu'on ne peut pas toutes les traiter. Donc, je vous demande de faire preuve de compréhension. Cheikh nous accorde 1 heure, des fois même plus, et on essaye de lire le maximum possible. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Barakallahu fikoum de votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc le prochain cours est samedi, inshallah. Hayakumullah jamia.